Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Ouais. Yo, qu'est-ce que tu viens... Là, on a ouvert les micros. Là. T'as une amie qui travaillait pour Frank Ocean?
Ma très grande amie a été son assistante pendant 2 ans.
Quoi? Oh my God! Non, mais là...
Ouais.
J'ai jamais été fan comme ça de ma vie. Genre, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, et c'est fou parce que même son entrevue, le gars est tellement décontracté. Ils sont comme, ah, OK, t'as le poste. Elle entend parler d'eux comme jamais. Fait que, comme, tu sais, ils lui disent, oui, on t'embauche. Elle reçoit aucun courriel. Elle écrit 7 fois. Est-ce que je commence? Est-ce que je commence la semaine prochaine? Aucune nouvelle. 2 semaines plus tard, sont comme, tu commences la semaine prochaine.
Ouais.
Excuse-moi, 2 mois plus tard, sont comme, tu commences la semaine prochaine.
Ouais.
Puis elle était juste comme, c'est ça, travailler avec Frank. C'est vraiment in the present moment. Il n'y a pas de, on planifie. C'est pour ça qu'il prend autant de temps. Elle a dit, il y a tellement de projets sur lesquels il a travaillé dans les 2 dernières années lorsqu'elle était assistante. Puis à chaque fois, elle est comme, non, c'est de la scrap. Puis elle est comme, allô, c'est tellement bon. Puis il est comme, non. Puis c'est pour ça que quand il sort un album comme Channel Orange ou bien Blonde, tu les réécoutes pour le restant de tes jours. Là. C'est excellent. Ouais.
Wow!
Ouais. Puis elle a bien mangé en tout cas pendant 2 ans parce que les restaurants, là...
Ça y allait?
Ouais, ils allaient dans des top restaurants à New York.
Mais attends, mais est-ce qu'elle habitait dans ce coin-là, quoi?
Ben... Elle habitait à New York, ensuite, la pandémie l'a... Non, elle travaille déjà pour Frank. Elle est allée vivre à L.A. Et quand elle était à L.A., Frank et son équipe étaient à L.A. Et je pense que c'est quelqu'un qui a référé son nom, quelqu'un qui connaissait Frank, qui a dit « Ah, j'ai besoin d'une assistante. » Cette personne-là savait que mon amie était une fan finie de Frank, puis elle dit « Ah, je pense que cette fille-là pourrait être top. » En plus, elle est dans l'espace créatif, elle est photographe également, elle est un creative director. Fait qu'ils l'ont interviewée, puis elle était tellement nerveuse qu'en dessous de la table, genre, ses jambes checkaient, mais comme ici, comme elle gardait le visage le plus neutre possible, mais elle était comme « Mes jambes, c'était comme la mort, là. »
Oh my God.
Puis là, elle a eu l'emploi, elle a pas réentendu parler d'eux pendant super longtemps. Finalement, elle a décidé de juste embarquer sur des projets indépendants. Puis là, une fois qu'elle était dans un projet, je pense, de documentaire, ils sont comme, OK, là, tu commences. Elle était comme, guys, je veux l'emploi, mais I've already committed. Fait que là, ils ont attendu qu'elle termine genre l'espèce de documentaire sur lequel elle travaillait. Puis là, elle a travaillé 2 ans pour lui. Puis finalement, c'est ça, elle a passé la pandémie à L.A. Puis là, ils ont fait un voyage L.A. jusqu'à New York, un road trip avec Frank Ocean. Ouais. Puis là, ils sont revenus à New York. Ouais.
Oh my God.
Ouais.
Mais là, qu'est-ce qui se passe? je comprends plus comment je réagis aux choses. Je suis une autre version de moi-même. Je suis comme...
L'as-tu déjà vu en concert?
OK, là,
raconte-moi.
Je veux juste que les gens sachent que...
Oui.
Là, je veux pas que tu penses que je suis pas intéressé à toi. Dania, important. C'est juste que juste avant qu'on ouvre les micros, tu m'as dit que ton ami, on parlait des albums qui étaient derrière moi, puis là, on a parlé de Frank, t'as dit ça, puis je suis comme, mais là, j'ai 1000 questions, fait qu'on commence comme ça, je veux pas que tu penses que je me fous de toi.
Non, je suis mieux d'avoir au moins une question.
Yo,
sur...
on va
non,
parler de toi en long et en large. Mais c'est bien extraordinaire, wow! T'es à une personne de Frank Ocean?
Ouais.
C'est, pour vrai, le pire, c'est
t'es
que...
T'es à 2 personnes de
oui,
Frank Ocean.
Oui, c'est ça! Oh, mon Dieu! Non, mais le pire, c'est que j'admire et respecte beaucoup de gens, mais Frank est vraiment dans une catégorie à part pour moi. Peut-être à cause du mystère qui entoure ce garçon. On en sait peu. Il n'y a pas beaucoup d'entrevues de lui.
Mm-hmm.
Tu cherches des trucs, même comment il est sorti de son label. Tout ça, fait qu'il y a beaucoup de mystère, fait qu'on dirait que des fois, en fait, souvent, je me dis « What would Frank Ocean do? » Puis je fais « Je peux pas être aussi badass que lui.
»
Mais je pense, un jour peut-être, mais tant que c'est incarné, puis ça me semble être pour lui.
Ouais.
Et pour répondre à ta question, en 2020, avant la pandémie, j'étais parti en voyage et j'ai fait « Hey, c'est la première fois que je suis disponible le week-end de Coachella.
»
Et c'est la première fois depuis que Frank Ocean était là. J'étais comme, peu importe où dans le monde, comme je suis pas attendu nulle part, je vais m'arranger pour être...
Ouais.
J'avais acheté des billets pour Coachella 2020, juste pour... Il y avait plein d'autres artistes que j'étais heureux de voir, mais c'était Frank, en fait, c'était ça. Ça a été annulé, donc ça.
Ouais.
Donc, non, je ne l'ai jamais vu. Toi, tu l'as-tu déjà vu?
Je l'ai vu à New York en 2017, qui a été le premier été où j'ai été à New York pour un emploi, parce que New York, c'est genre mon rêve, là, ouais. depuis comme début vingtaine. Puis j'ai vu qu'il jouait à un festival de musique, comme une île juste à côté de New York, Randall Island.
Okay.
Puis il y avait littéralement, là, ce que j'ai vu, like back to back, Tyler the Creator, Solange, Frank Ocean. Ouais.
Wow.
Puis c'était tellement drôle parce que Frank avait joué une chanson, je pense qu'elle était nouvelle ou je sais pas, puis il portait comme des espèces de headphones comme énormes sur ses oreilles.
Yo, sais-tu le show qu'il y a sur le web? Tous les extraits de lui, y avait-tu les cheveux bleus?
Ah, ça se peut. Je sais pas.
Parce que sur YouTube, comme les versions live de ces tunes, si je me trompe pas.
Ah, ça se peut que ce soit ce concert-là.
C'est ça, genre, gamin.
Mais il y avait un moment tellement drôle parce qu'à un moment donné, il joue une chanson que personne reconnaît. Fait qu'il termine puis on applaudit à peine. Mais lui, avec ses headphones, il entend rien.
C'est-tu Way Out West?
Non, non, non.
Non, c'est pas ça?
Non, non. Ouais.
OK. C'était en 2017, ça aussi. Okay, mais okay, okay. Ça devait juste être son set, son...
Ouais, je pense que ça a été celui que j'ai vu, ça devait être un des derniers, parce okay. qu'il n'y a plus faire de show, bah, à part Coachella qui a été annulé. Yeah. Puis apparemment, la blague, c'est Frank qui a initié la pandémie pour pouvoir se sortir de Coachella. Tellement il déteste être en public, puis genre faire des shows. En tout cas, mais...
Tu l'avais vu.
Ouais, mais il y avait un moment tellement drôle, parce qu'il joue une chanson, personne ne reconnaît, puis lui, il a ses headphones, puis on applaudit, mais pas autant qu'une chanson qu'on connaît, tu sais.
Yeah.
Fait que là, mais lui, avec ses headphones, il voit comme un public, tu sais, genre comme mort, qui applaudit pas, puis là, il dit « OK, that's awkward ». Genre, tu sais, parce qu'il est comme « OK, on passe à la prochaine », parce que clairement, « That song did not hit ». Mais parlant de Coachella, c'est drôle parce que j'étais un peu comme toi, j'étais sur la West Coast en 2018. J'avais, bon, là, je vais plugger mes petits succès, mais j'avais une conférence à Berkeley, genre UC.
Yo, mais là,
Berkeley.
C'est ça, il va falloir que tu me racontes ta vie, là. Raconte ta anecdote, puis après ça,
ouais, on va Beyoncé jouait à Coachella en 2018.
Son film, c'est...
Oui!
C'est show-là.
Et c'est comme, c'est son meilleur concert à vie. J'étais comme, je ne peux pas, like, I cannot not go.
Ouais.
Et j'étais, et genre, jusqu'à ce jour... Hands down, meilleur concert ever. Genre, c'était malade mental. Fait que Coachella, à mon avis, franchement, ça vaut la peine de le faire au moins une fois. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai fait la meilleure année 2018 avec Beyoncé.
C'est clair.
Ouais.
Wow.
Elle a détruit le... Non, je te dis, vraiment, là.
Elle est tellement badass.
Ah, tellement. Ah. Sur stage, là, c'est un monstre. Un monstre dans le sens positif, like a beast, là.
Yeah.
Elle dévore le stage. Il n'y a personne. Non, c'est ça. J'en
femme
ai des frissons.
Fatale, mais d'une, comme Beast, je pense que c'est vraiment ça. Puis dans Homecoming, tu le vois.
Oh my God.
Ça ouais. n'a aucun bon sens, la préparation,
ouais.
le respect, le amen. Puis le show est insane. Ouais. Je peux même pas m'imaginer le live.
Ouais, ouais. Puis moi, j'avais fait le week-end 2. Fait que là, mes amis savaient. Puis là, ils m'envoyaient des footage. Je suis comme, mais ça va ou quoi? De m'envoyer de ma surprise d'avance. Fait que là, j'étais même plus sur les réseaux sociaux. Je suis comme, je vous déteste. Juste pour être comme vraiment surprise quand j'allais être là. Puis je me souviens, peut-être comme une semaine avant Coachella, le week-end 2, like reports were coming out, ils disaient « Beyoncé is now rehearsing 11 hours a day for Coachella. 11 hours a day, elle danse. Ah, » moi, j'étais comme, je sais pas ce qui s'en vient, mais ça va être phénoménal. Ouais.
Wow.
Fait que brève parenthèse sur
insane.
Beachella.
Quand t'as vu Frank... Tyler puis Solange, c'était bon aussi?
Ah, c'était malade. Puis Tyler venait de sortir un album comme deux jours plus tôt. Et il joue une chanson et toute l'audience à New York connaissait les paroles. Et on le voit encore sur YouTube, il arrête puis il est comme « I've never witnessed this ever. New York crowd is on some next level. » Il est comme « Comment vous connaissez mes paroles? Je viens de sortir. » Puis New York est comme « I got you. » T'sais, on est là! Puis même moi, je connaissais pas les paroles. T'sais? Puis comme toute la crowd connaissait les paroles, et puis il en revenait juste pas. Puis là, après Solange.
Elle est tellement sick, Solange.
Elle est libre.
Yeah.
Ouais, elle est tellement libre.
Je pense que ça, c'est une des choses que j'admire le plus de mes artistes préférés,
ouais.
c'est leur liberté.
Ouais.
C'est quelque chose que je trouve... tu vois, hier soir, je jouais au bordel, puis Adib Akhalidé, qui est un ami à moi,
ouais.
Mais qui est surtout qui est un ami à moi, mais en plus, c'est quelqu'un que j'admire. C'est un artiste que j'admire énormément. Puis il était sur scène, il était libre.
Ouais.
Libre,
ouais.
mais à un niveau...
Ouais.
c'est un aimant. Mm. C'était attirant. Ouais. C'était là.
Ouais.
Tu pouvais pas faire autre chose qu'écouter ce qu'il faisait. C'était extraordinaire. Puis il disait en plus. Mm. C'était malade. Ouais. Que je trouve que c'est une belle qualité.
Est-ce que c'était votre première fois sur un stage depuis la pandémie? Ou
moi, la première fois que j'ai rejoué, c'est la semaine dernière.
OK.
Fait que là, c'était la deuxième soirée que je montais sur scène depuis juillet l'année passée.
Ouais. Parlant de 2017, la première fois que je t'ai vu, c'était en 2017, genre février 2017, avant que t'exploses avec OD et tout. Et c'était un petit bar dans Hochelaga, Maisonneuve.
La brasserie des Patriotes?
Ça se peut. Puis c'était... les autres, c'était Abba and Preach.
Oh shit! Non,
est-ce que tu te souviens de cette soirée-là?
Oui, je m'en souviens, certain.
Ouais.
Oui, je m'en souviens. C'était au bistrot
Sainte-Catherine. Yeah. Exact, ouais.
Je me souviens de la soirée.
Ouais.
C'était un hostie de cool show.
Ouais, c'était le fun, cette soirée-là. Ouais.
Et oui, Preach, c'est un. Abba, je le connais moins, mais je le connais à cause de quelque chose. Preach, c'est un ami.
Ouais.
Il est venu sur le podcast. Sick dude, là. Genre, mm-hmm. Je les adore. Puis ouais, cette soirée-là, la vibe était tellement.
La
bonne.
Vibe était vraiment bonne, ouais.
Ah,
ouais.
Ben c'est bien cool.
Fait que rebonjour, quatre ans plus tard.
Yeah! Mais là, il faut que tu me racontes ta vie, là. Dania Suleiman, là, est-ce que j'ai prononcé ton nom correctement?
Ouais.
Dania Suleiman.
Ben, c'est Suleiman, mais mon père l'a tellement écrit n'importe quoi que...
Suleiman.
Suleiman, ouais. Dania Suleiman.
Et là, t'as grandi sur la Rive-Sud, toi aussi.
Oh! Là, j'avoue un côté de mon passé que j'avoue pas souvent. Moi, je suis comme born and raised in Montreal, yeah, NDG. Mais, parce que j'ai toujours fait l'école à NDG.
OK.
Mais mes parents ont toujours été sur la Rive-Sud.
That's what's up. 4-5-0.
4-5-0 Rive-Sud, exact, ouais. Entre la Prairie, Brossard, Saint-Lambert, là, ces trois quartiers différents.
Puis, t'es allé à quelle école à NDG?
MCQ, qui est une école musulmane. J'ai fait l'école musulmane de la maternelle jusqu'en secondaire 2, puis ensuite j'étais à Villa Maria,
okay, ouais.
Pas loin. Là.
Ouais. Et pourquoi t'es allée à l'école musulmane?
Ben, mes parents, je pense qu'ils voulaient me transmettre une identité religieuse plus que tout. Et il faut leur demander à eux pourquoi ils m'ont envoyé là, mais vite, c'est devenu un de mes endroits préférés au monde. J'ai tellement des belles années, tu sais, tellement des bons souvenirs de ces années-là, entre autres parce que on se ressemblait tous, on avait tous un peu des noms différents. Fait que j'ai jamais pris conscience de ma différence jusqu'à beaucoup plus tard dans ma vie, entre autres parce que j'ai grandi dans un milieu très hétérogène, mais en même temps aussi homogène. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Dans le sens, on venait de partout. Tu sais, Libanais, Pakistanais, Marocains, Sénégalais, moi qui est moitié érythréenne, québécoise. Mais en même
moitié
temps...
Moitié quoi, pardon?
L'Érythrée, érythréenne.
C'est où, ça?
L'Afrique de l'Est, à côté de l'Éthiopie.
Comment ça s'appelle?
Érythrée. Exact. Érythréa en anglais,
oh my
Érythrée.
God, j'ai jamais entendu ça. Toi, tu connais ça, Alex?
Ouais,
c'est sûr qu'Alex,
connaît ça, ouais.
Oh my God, j'avais jamais entendu
mais
ça.
On est un jeune pays, fait que je te donne le crédit de ne pas connaître l'Érythrée.
Ah ouais,
on a 30 ans, 91, on vient célébrer nos 30 ans.
Yo, on met
ah ouais?
Moi.
Mais t'es 91? Quel mois? Okay.
Septembre.
Ok. Nous, on est mai 91.
Ok, vous êtes plus vieux que moi.
Ouais, de quelques mois.
Est-ce que t'es déjà allé?
Une fois.
Une fois seulement?
En 2014, ouais, c'était magnifique.
C'était comment?
Ah, c'était... Wow, mais ça, je peux en parler longuement.
Est-ce que t'es allée avec tes parents?
Non, j'étais toute seule. Mon père voulait même pas que j'y aille.
Pourquoi?
Parce que c'est un des... Les gens comparent l'Érythrée à la Corée du Nord de l'Afrique.
Oh.
Tellement la presse, elle est complètement fermée. C'est un dictateur, évidemment, qui est en place. C'est quelqu'un qui faisait partie de la révolution. Dès que la révolution était terminée, on a eu notre pays. Parce que ça a été une guerre de 30 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour l'indépendance de l'Érythrée. Parce qu'avec la colonisation, on était devenu comme une annexation avec l'Éthiopie, alors que l'Érythrée a toujours été comme différent. Même si on fait partie comme peut-être de la même ethnicité Habasha, reste qu'on avait des différences. Beaucoup plaidaient à l'époque, non, une confédération pour offrir beaucoup plus d'indépendance à l'Érythrée. Finalement, ça a été une annexation, il y a eu une guerre de 30 ans, des années 60 à 90. Ça a été la plus longue guerre africaine, en fait, pour l'indépendance de l'Érythrée.
Oh, damn.
Puis, non, c'est ça. Puis quelqu'un qui faisait partie de la révolution est finalement devenu président. Puis il est, tu sais, depuis ce temps-là. Puis c'est vraiment exact. C'est vraiment difficile. L'Érythrée est le pays qui perd le plus de ses citoyens pro-rata, on s'entend, que n'importe quel pays dans le monde au niveau des réfugiés. Ouais, fait que ça a été comme des grandes crises. Fait que mon père voulait pas que j'y retourne parce que il considère que le pays est pas stable, c'est dangereux. Mais moi, j'étais comme no way, j'y vais no matter what. Puis c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Et une fois que j'étais là-bas, que j'ai rencontré sa famille qui était en Érythrée, qui cette partie de notre famille n'a jamais pu sortir. Pour la plupart, quasiment tous les oncles et les tantes sont sortis de l'Érythrée, sauf quelques oncles et tantes qui sont restés. Puis c'est ça, mon père, quand je lui parlais au téléphone, pour la première fois de ma vie, il m'a dit, genre, je suis fière de toi.
Tu sais, oh,
genre,
wow!
Ouais. Fait que non, c'était vraiment un voyage superbe. Puis j'avais utilisé une compagnie aérienne qui s'appelle Yemeni Airlines, qui a comme un étoile. Puis si ça pouvait avoir zéro étoile, il y aurait zéro étoile. Puis j'avais comme menti à mes parents, ils sont comme « si tu prends Yemeni Airlines, ils sont comme « prends au moins Égyptair », je suis comme « ouais, je vais vous écouter », mais non, parce que je voulais vraiment faire un arrêt au Yémen, je voulais aller voir Sanaa. Puis
pourquoi?
Pour moi, c'est un endroit mystique, c'est le pays le plus pauvre des pays arabes, et je trouve qu'il y a quelque chose dans la... Il y a comme... Je veux pas non plus comme romantiser comme la pauvreté, mais les Yéménites, à chaque fois que je les ai rencontrés, je trouve qu'ils ont tellement une belle âme et je voulais aller voir leur pays de moi-même, même si c'était comme un arrêt de 24 heures. Et enfin, bref, pour te dire que la compagnie aérienne était horrible, sur le chemin du retour à Asmara, qui est la capitale de l'Érythrée, à Sanaa, la capitale du Yémen, c'est une heure de vol parce que c'est juste comme la mer Rouge qui nous sépare. Il y avait un oiseau dans l'avion.
Genre, il s'est ramassé là-dedans.
S'est ramassé dans l'avion et il a commencé à paniquer, fait qu'il chiait partout.
Non!
Puis là, les femmes érythréennes qui criaient parce que c'est encore « Ma bouffe! Qui touche pas à ma bouffe! » Et moi, j'étais de l'autre côté de l'allée, fait que j'étais comme une chance que... Ouais, mais j'étais crampée. Je suis comme « OK, une étoile. » Je le comprends. Je comprends le « une étoile. » Ouais.
Ah, c'est malade!
Ouais, ça c'est drôle.
Ah, c'est drôle. Ton père a quitté l'Érythrée en quelle année?
Mon père a quitté, il est arrivé ici en 75, il a dû quitter début années 70 et il a fait un arrêt en Arabie Saoudite, il a fait un arrêt en Italie. Et en 76, Montréal avait les Jeux Olympiques. Yeah. Fait que c'était le mot, là, c'était Montreal, Montreal, Montreal. Fait qu'il était comme, I keep hearing about the city, let me go. Puis c'est comme ça qu'il s'est retrouvé décembre 75 avec ses petites, tu sais, comme ses petites claquettes, là, puis ses shorts. Puis il était comme, dans quoi je me suis embarqué?
Ah, c'est clair.
Puis, tu sais, à l'époque, Montréal, c'était très différent de ce que c'est en ce moment. Tu sais, c'était un peu le Toronto du Canada, ouais. Tu sais, au niveau économique, au niveau financier, au niveau culturel. Évidemment, on parlait de un peu comme du Montréal qui allait être le New York ou le Paris, tu sais, ouais, qui allait comme avoir un métissage des cultures européennes et des cultures anglo-saxonnes. Évidemment, pour des raisons super justifiées et valides, le Québec a pris un autre tournant. Mais, tu sais, mon père, il a vraiment pas vécu la vie typique d'un réfugié. Très vite, il a pu se dénicher, même pas dénicher des emplois, avoir ses propres commerces et avoir ses propres business. Puis, je trouve qu'à l'époque, il y avait pas autant peut-être d'obstacles à un immigrant pour son émancipation. Tu sais, ouais, 100%. Tu sais, mon père est arrivé, puis comme vite, il était comme un poisson dans l'eau, là.
Ah ouais.
Il a jamais été employé, il a toujours été.
Tu penses que c'est pire aujourd'hui? C'est du moins selon l'expérience de ton
père. Je pense qu'il y a plus d'obstacles aujourd'hui. T'sais, comme, et on peut comprendre ces raisons-là. On s'entend que l'immigration débutait à ces époques-là. Fait qu'avec un début, il y a moins de règlements. Puis, tu sais, le Québec a voulu mettre en place comme des programmes de francisation. On le comprend, tu sais, mais oui. À l'époque, je pense que quand un immigrant arrivait, il y avait peut-être plus de liberté de s'adapter à sa façon. Puis, il y avait moins d'immigrants. Et en général, tu sais, mon père, il avait un afro, il marchait à Montréal, puis ça, comme, c'est bien le fun, ton afro, tu sais, il était comme vu juste, tu sais, comme un parmi peut-être une dizaine, vingtaine, ils n'étaient pas tant d'immigrants que ça, ou il y en avait peut-être plus, là, dizaine, vingtaine, j'exagère, là, mais tu sais, mais alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a comme, tu sais, il y a eu des périodes où on voyait l'immigration comme une menace,
ouais.
Tu sais, à la culture québécoise, fait avec un sentiment de menace vient comme des restrictions, des obstacles. Fait que...
C'est tellement dommage qu'on voit ça comme ça parce que c'est tellement l'inverse. C'est tellement la richesse, curieusement. T'sais, ça fait tellement partie de notre richesse. Il faut tellement voir comme ça. T'sais, la pluralité de nos expériences, d'où on vient. Puis, t'sais, quand on parle de culture, le partage des cultures, ça fait pas qu'on perd la nôtre. Je trouve que ça fait juste la renforcer. Je trouve ça... T'sais, mon meilleur ami est d'origine syrienne. J'en parle souvent, mais tu sais, c'est extraordinaire, là, le partage qu'on peut avoir, lui et moi. Puis je parlais d'Adib tantôt, c'est lui qui m'a mis dans la tête que Daniel Bélanger, c'est une fucking rockstar, puis il est badass. Puis c'est comme, il y a quelque chose de très... je trouve que le partage est tellement plus important, on est tellement plus gagnant.
Oui, je suis d'accord, j'habite ce sentiment-là. Je crois beaucoup aux réconciliations, je crois beaucoup au partage, à l'éducation, au dialogue, à poser des questions, à être dans l'inconfort également, mais de là à mettre toujours des obstacles, être dans la menace, accuser, pointer du doigt, c'est là où ça peut devenir très lourd, tu sais. Puis je pense que... honnêtement, moi, je pense même que ça vient comme ternir un peu l'image de Montréal ou du Québec. Des fois, on entend parler de Montréal ou du Québec, tu sais, en dehors de notre province, puis les gens sont comme « Ah, ça se passe-tu vraiment de même, tu sais, au Québec? Est-ce qu'ils ont vraiment adopté telle loi? Ou est-ce que c'est si difficile d'être minorité religieuse? » Des fois, il faut que tu avoues que, ouais, ça l'est, tu sais, on vit comme des moments difficiles, entre autres, mais bon. Mais je partage le même sentiment que toi.
Mais toi, le pire, c'est que tu t'es vraiment... penché sur la question, t'as écrit un livre à propos de ça, les malentendus.
Oui.
D'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre, puis c'est quoi ce livre?
Ouais. Ça débute avec le débat sur la charte des valeurs québécoises en 2013-2014, qui a vraiment été une année lourde.
Puis là, à ce moment-là, t'avais quel âge?
J'avais 19 ans. C'est une blague. J'avais, je sais pas, mi-vingtaine, à peu près.
OK.
Ouais, genre 24, 25, une affaire de même.
All right.
Puis.
Fait que toi, je pense ça, c'est pas tant. Ouais. C'est juste que, moi, mettons, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 cette année. Puis c'est relativement récent que des fois, je suis plus conscient de plus de choses. Tu sais, on dirait que plus jeune, j'avais pas des fois cette espèce de d'écoute-là, peut-être, ou de sensibilité-là, je sais, maturité. Fait que c'est juste pour ça que je demande, tu sais, toi, je dis quand la Charte des droits et libertés, je dis. Crime, t'as mis vingtaine, tout ça, j'imagine que ça t'a vraiment challengé.
Mais, tu sais, peut-être une question de sensibilité, mais aussi une question d'identité, dans le sens où moi, ça venait, tu sais, ces débats-là comme, me ciblaient, entre autres, moi et plusieurs autres communautés, pas juste moi, mais...
Pour remettre en contexte des gens, mettons, qui à ce moment-là étaient des kids, c'était quoi déjà?
La Charte des valeurs québécoises, c'était un projet finalement qui a été comme poussé par le Parti québécois. Et à l'époque, on voulait la question de l'apparence de neutralité où la neutralité était super importante. Et entre autres, on voulait que nos institutions publiques, autant les fonctionnaires de l'État que l'institution en tant que telle, soient complètement neutres et n'aient aucun référent religieux. Et donc, on demandait... Ce qui était proposé, entre autres, c'est que tous les fonctionnaires de l'État, donc ça comprenait les juges, les enseignants, mais même quelqu'un qui travaille juste à la caisse, là, tu sais, au palais de justice, par exemple, n'aborde pas ou ne porte pas aucun signe religieux, sauf une croix discrète. Donc, il faut le mentionner parce que franchement, tu sais, c'est comme au moins dans une loi, essayer d'être le plus juste possible. Fait que, tu sais, de faire hormis une croix discrète parce qu'il y a le principe que tu peux la cacher, tu sais, comme dans un chandail, tu sais, ça fait comme, OK, après, essaie de venir me convaincre que c'est pas discriminatoire, tu sais.
Ouais, exact, absolument.
Fait que ça a été une année lourde, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que le budget de 2014 n'avait pas été adopté parce que le PQ était un parti minoritaire. Et donc, forcément, on est rentré en élection et c'est le PLQ qui est rentré pas longtemps après. Et donc, le projet de loi n'a juste jamais été même adopté. Tu sais, l'Assemblée nationale, le plus loin qu'on a été, c'était les mémoires qui avaient été déposées, les gens qui venaient comme plaider un peu devant l'Assemblée nationale pour dire « je suis contre ou je suis pour ». Entre autres, on a eu droit à des scènes que je trouve hyper comiques, tu sais, d'un Québécois qui était en région, qui avait été au Maroc et il avait été complètement... Je sais pas si tu t'en souviens, puis il était comme « puis qui prie à qui à tête, c'est quoi ça? »
Non!
Je veux pas... Oui!
Non!
Puis là, tu sais, qui parle du niqab comme étant une cagoule. Moi, personnellement, ça me faisait rire, genre, parce que j'étais comme, tu sais, je comprends la crainte, mais comment c'est verbalisé? Il y a quelque chose de très humoristique également. Finalement, ça n'a pas été adopté. Je pense que comme il y a eu comme un soulagement collectif au niveau des minorités religieuses qui ont eu peur que ça vienne, qu'il y ait un conflit entre mon employabilité puis ma pratique religieuse. Jusqu'à temps que la CAQ Exact.
La loi 21, c'est
ça? La loi 21 qui a été adoptée en juin 2019, ça fait 2 ans. Là, tout de suite, il y a eu des recours judiciaires.
Encore une fois, pour ceux qui... Excuse-moi, je t'ai coupé.
Pardon,
mais pour ceux, mettons, qui n'auraient pas suivi ça, la loi, dans le fond, met en œuvre ce que la charte demandait.
Pas aussi intense. Je pense qu'ils ont voulu faire un juste milieu entre les Québécois, tu sais, qui se situent comme PLQ et qui sont contre, mais les Québécois, que pour eux, c'était super important. Fait que oui, ils reprennent plusieurs éléments de la Charte des valeurs québécoises, mais restreignent l'interdiction de port religieux aux enseignants, gardiens de prison, juges. C'est quoi le troisième? Policiers. Policiers et policières. Sauf que c'est le type de loi qu'ils disent oui, c'est ces 4 professions-là, mais au niveau démographique, la population la plus touchée par ça, c'est les femmes musulmanes enseignantes qui portent le voile, mm-hmm. parce qu'elles se retrouvent souvent dans ces milieux-là pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, il n'y a pas tant de minorités religieuses qui sont des juges. Pour la plupart, même si tu trouves un juge noir, you're lucky. T'sais, comme pour la plupart, c'est un milieu quand même assez blanc.
Ouais.
Francophone pour la plupart, mais également anglophone. Policier, la même chose. Je pense qu'on a parlé d'une femme voilée qui était policière. Gardien de prison, c'est comme... C'est almost a moot point, là. Je veux dire, il y en a combien de gardiens de prison, tu sais?
Mm-hmm.
Mais je pense que la profession la plus ciblée, c'est les enseignantes au Québec. Et donc, pour moi, il y a vraiment une ironie de dire droit des femmes, féminisme, la religion, c'est patriarcal et donc on interdit. Mais en adoptant un projet comme ça, ben, on retire l'accès à l'emploi à une femme. Et je pense que c'est démontré historiquement que, tu sais, l'emploi, ça a été un des mécanismes qui a libéré la femme le plus, parce qu'elle avait son propre gagne-pain, puis elle pouvait finalement décider, je veux me divorcer, je veux avoir mon propre espace domiciliaire, tu sais. Et donc, pour moi, c'est tellement anti-femme et anti-féministe d'adopter une loi comme ça, où on demande à une femme de... Tu ne peux pas travailler tel que tu es.
Ouais.
Ouais. Sur des arguments que moi, je trouve banals, qui est ceux de... On veut limiter le prosélytisme, on veut...
Excuse-moi, là, je suis peut-être un idiot.
Excuse-moi, c'est quoi, prosélytisme, c'est des gens qui font du religious preaching.
OK.
Tu sais, la Bible, le Coran, ouais. La Torah, whatever, tu sais. Ouais. Ça, c'est considéré du prosélytisme. Et certainement, au niveau historique, les religions ont été très prosélytes. Je veux dire qu'on parle du christianisme en Afrique, qu'on parle même de l'islam en Afrique du Nord, qu'on parle... le judaïsme, les gens pensent que c'est pas une religion prosélyte, mais historiquement, elle l'a été dans les débuts du judaïsme. Par la suite, c'est devenu une religion beaucoup plus... quand je dis pas mystérieuse, mais comme reclusive, dans lequel c'est très, très difficile de se convertir au judaïsme.
Vrai, ouais.
Mais toutes les religions, historiquement, et oui, on le comprend, mais je pense que de nos jours, au contraire, tu sais, c'est comme c'est vécu... plus sobrement, mais ça existe encore, je veux dire, les témoins de Jéhovah.
Même ici, le christianisme, on
ouais.
On n'a pas besoin de monter loin, nos grands-parents.
Exact.
Ça a été ça, là, ouais. Quand t'entends des familles de 18 enfants, puis c'est le prêtre qui mettait de la pression, le prêtre qui choisissait les noms. Mon oncle, là, on n'est pas loin, là, on est une génération, mon oncle, tout le monde l'appelle Danny.
OK.
Puis ma grand-mère voulait l'appeler comme ça, puis le prêtre voulait pas, fait que sur son baptistère, c'est Daniel.
OK.
Tu sais, fait que ça, on n'a pas besoin de remonter loin.
Ouais. Non, ma mère également vient d'une famille de 13 enfants, une famille comme très, très catholique. Mais je le comprends au niveau collectif, au niveau sociologique et historique, les raisons pour lesquelles les Québécoises et les Québécois ont voulu s'affranchir de la religion catholique. Après, je pense que ce qui est dangereux, c'est de prendre un peu comme ton vécu avec la religion et de l'imposer à autrui, comme forcément, toi aussi, tu dois être dans quelque chose de, tu sais, comme la soumission, dans l'ordre, dans l'hiérarchie. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui disent, OK, on le comprend que c'est ton histoire avec la religion, puis on n'essaie pas de le nier, mais c'est pas mon histoire avec la religion. Et donc, c'est vraiment difficile de, par la suite, adopter des lois sur quelque chose qui s'est passé il y a quoi, 80, 100 ans, et on le nie pas, mais je trouve que ça ne reflète pas nécessairement la réalité d'aujourd'hui au Québec ou de, tu sais, des minorités religieuses. Donc, enfin bref, pour revenir à ce qui m'a inspirée, c'était le contexte politique 2013-2014. Mais on s'entend que ça l'avait débuté bien avant, tu sais, 2008, il y avait eu la commission sur les accommodements raisonnables, puis la commission Bouchard-Taylor qui s'est promenée partout au Québec, et les gens qui se prononçaient devant des audiences, et là, on entendait. Mais à chaque fois, on avait l'impression qu'il y avait une montée, hop, ça redescendait, puis on pouvait respirer, puis là, ça remontait, puis là, ça descendait.
C'est fou.
Hein? Puis là, il y a l'adoption, vraiment, il y a une loi qui est en place, là, comme la loi 21. Fait que j'avais déjà fait comme un grand terrain de recherche au niveau... Ah oui, c'est ça. Puis en 2013-2014, c'est qu'il y avait des juristes qui parlaient d'une tension irréconciliable entre l'égalité des sexes et la liberté de religion. Et le principe voulant que, puisque la religion, c'est patriarcale, c'est forcément un obstacle à l'émancipation des femmes et donc à l'égalité des sexes, on devrait hiérarchiser... Oh my God. Go ahead.
Non, non, arrête. Là. T'es super brillante. Tu t'en fâches dans un mot. Là. Il y a un...
Edit from the clip.
Là, c'est moi qui t'en fâche. C'est moi qui ai la brillance. Je ne prendrai pas ce rôle. Je m'excuse.
Hiérarchiser les droits. Et où, tu sais, que la liberté de religion devienne comme soit un parent pauvre ou soit secondaire à l'égalité des sexes. Et moi, je trouvais que c'était tellement une équation simpliste. Et donc, mon terme était devenu, ben, tu me parles de des tensions irréconciliables. Laisse-moi te parler des tensions. Laisse-moi te parler des réconciliations possibles entre la liberté de religion et l'égalité des sexes. Et donc, j'ai voulu faire un travail au niveau sociologique, au niveau du droit. Je suis comme, OK, tu me parles de cette tension-là. Allons vérifier si, effectivement, dans les jugements, il y a une tension irréconciliable entre ces deux droits-là et dans le féminisme postcolonial, qui, pour moi, est un féminisme qui vient réconcilier beaucoup la religion, le féminisme, etc. Donc...
C'est fascinant.
Ah, ben merci.
C'est vraiment fascinant.
Ouais, merci.
Fait que là, le point de départ, c'était ça.
Ouais.
Mais j'ai envie, évidemment, qu'on revienne à tout ça, mais je sens aussi tout ton bagage personnel à travers cette histoire-là qui a fait en sorte que ces adoptions de loi-là, ces commissions-là sont venues te challenger sans aller dans ta vie privée. Mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton bagage? T'sais, justement, on sait que t'es allé à l'école musulmane quand t'étais kid.
Ouais.
On sait que ton père est africain de l'Est. Ta mère est québécoise.
Ouais.
Mais c'est quoi ton histoire qui a fait en sorte que, hey, attends, moi, il faut que je me penche là-dessus parce que ça me challenge moi, ça challenge ma vie à moi, mes réalités à moi, puis j'ai envie de les réconcilier, mes réalités à moi.
Ouais. Ben, c'est ça, j'ai été à l'école musulmane quand j'étais jeune. Je pense qu'à cette époque-là, t'es enfant, la manière dont j'absorbais la religion, c'était vraiment les do's and don'ts, là. Don't drink alcohol, don't drink port, but you can have fun. Tu sais, des affaires de même, j'étais comme, got it, laisse-moi tranquille, je vais aller à la ronde, je vais m'amuser, tu sais, comme, je m'en fous.
Je trouve ça cool aussi que tu dises que tu t'en gardes un excellent souvenir.
Ouais, un super bon souvenir, ouais.
Je trouve ça cool d'entendre ça, parce que c'est trop rare qu'on entend ça par rapport à la religion musulmane.
Ouais.
Chose qui est complètement ridicule quand tu fais, ben, c'est sûr qu'il y a du positif là-dedans.
Ouais, ouais, ouais. Puis c'est entre autres ce que je voulais faire dans mon livre. Je vais revenir sur mon histoire personnelle, mais entre autres, c'est ce que je voulais faire, comme le côté sociologique que je fais. Je me dis, OK, il y a une fracture autant intellectuelle qu'émotionnelle au Québec par rapport à la religion. Et on voit la religion comme étant des prêches, un milieu austère. Et je voulais vraiment démontrer la réalité que c'est aussi un espace de sociabilité dans lequel il y a tellement de gens. Puis même, ça l'a aidé à l'intégration d'énormément d'immigrants parce qu'à travers, disons, le temple, la mosquée, synagogue, moins d'immigration, mais même les églises africaines pentecôtistes, il y a tellement de pamphlets. Où peux-tu aller chercher des cours de français? Où peux-tu aller chercher un emploi? Tu sais, c'est vraiment un espace qui favorise. Et c'est même pas comme voulu, c'est juste comme par le fait même des communautés, des partages, tu sais, comme des partages de connaissances, d'outils. Et c'est des espaces de sociabilité. Oui, il y a peut-être la prêche qui se passe là, mais par la suite, c'est aussi comme un espace où les gens prennent un thé ou un café ensemble, tu sais.
Un lieu de rencontre.
Un lieu de rencontre également. Donc, c'était ça le travail au niveau sociologique, d'aller faire comme... C'est pas aussi sombre que vous pensez que c'est l'est.
Ben, puis même au début de la pandémie, tu sais, moi, ça a été un exemple où, tu sais, si je me suis promené un peu dans Outremont et tout ça... je ne sais pas si tu te souviens, mais vu qu'on ne pouvait plus se rencontrer, mais il y avait des chants d'hommes juifs sur leur balcon, dans les rues. C'était extraordinaire.
Wow, c'est magnifique.
C'était magnifique. Fait qu'au coucher de soleil, à l'heure de la prière, ça sortait chacun sur le balcon, ça chantait dans le quartier.
Ouais.
C'était à couper le souffle.
Ouais, ouais, ouais. Non, je te crois. Non, c'est vraiment des... C'est ça, il y a beaucoup plus d'humanité et de chaleur qu'on puisse associer avec ces espaces-là. Et je pense qu'on associe quelque chose de négatif à cause qu'il y a des règles. C'est une religion, ça arrive avec un peu les douzaines d'ondes là, dont je parlais. Puis beaucoup de gens veulent s'affranchir de... Donne-moi pas un guide, là. Je veux pas un blueprint de comment vivre ma vie. Je le comprends. Mais si quelqu'un te dit qu'il est bien dans ce blueprint-là, ben laisse-le vivre un peu sa vie tranquillement. Mais enfin, bref, pour revenir à... Mon histoire, c'est ça, c'est que j'étais à l'école musulmane. Ça a été des années de fou rire à non plus finir. Mes plus grandes amitiés viennent de cette école-là, en fait. Et c'est ça, rendu au secondaire, l'école performait plus aussi bien. Fait que ma mère était comme, il n'est pas question que ma fille parle un français tout croche. Non, elle ne dit pas de même. Là, mais elle était comme, ah là, c'est temps de... Tu sais, je veux que tu ailles dans une école qui performe encore
Parce qu'à mieux. La maison, tu parles quelle langue?
Avec ma mère, je parle en français. Avec mon père, je parle en anglais.
OK.
Ouais. Mais mes
parents
sont... Ce
qui est quand même extraordinaire.
Sont divorcés, là, mais... Okay. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est un acquis. Mais j'ai encore un petit accent en anglais, là. En tout cas, aux États-Unis, ils sont comme « Where are you from? » Je suis comme « Shut up! »
Ah! Mais c'est comme, charmant, c'est
je suis comme non, « Non, non, je sais, je l'assume entièrement, mais... » Tu sais, puis ils connaissent pas l'accent montréalais. Tu sais, je trouve qu'il est comme de tous les accents parlés en anglais, à moins que tu viennes de Montréal ou tu es Canadien... Tu reconnais pas tant l'espèce de son, tu sais, parce que c'est pas un accent français quand tu parles en anglais, tu sais, c'est vraiment propre à nous, mais enfin, ouais. Bref. C'est ça, mes parents m'ont envoyé à Villa Maria. J'ai tout fait pour échouer l'examen d'entrée tellement je voulais pas aller à Villa Maria.
Tu voulais rester à ton école.
Ouais. Et je l'ai échoué parce que j'ai même pas répondu à 50% des questions.
OK, t'étais un peu rebelle quand même.
Ouais. Puis ma mère, c'était le premier jour du mois de Ramadan. Fait que, tu sais, l'école appelle, c'est comme, malheureusement, on vous fait échouer l'examen. C'est bizarre, leurs bulletins sont assez bons à l'école. Puis là, ma mère est comme, c'était le premier journée de jeûne au mois du Ramadan, s'il vous plaît. Puis là, en tout cas, quand on était admise, ma soeur et moi, on était comme, comment on a pu être admise? On a tout fait pour échouer l'examen. Tu sais, on n'a même pas répondu à 50% des questions. Là. Pour moi, c'était sûr, Puis finalement, ils sont comme, OK, on va accepter vos filles à Villa Maria, mais elles vont être sur, tu sais, probation, tu sais, on va les surveiller. Puis je me souviens, quand j'avais des bonnes notes, la prof de maths était comme, en tout cas, tu m'épates, tu sais, pour quelqu'un qui a pas pu. J'étais comme, de quoi tu parles? Puis là, je suis revenue voir ma mère, puis là, elle ricanait. Elle était comme, ouais, ouais, là, c'est moi, là, tu sais, j'ai joué derrière, tu sais, pour s'assurer que vous puissiez rentrer. J'étais comme, oh mon Dieu, je pensais que j'étais intelligente, elle est plus intelligente que moi. Mais c'est ça, puis quand j'étais à Villa Maria, c'était la première fois que j'étais dans un milieu comme beaucoup plus... j'ai toujours été dans un milieu francophone, mais beaucoup plus blanc. Mais j'arrivais aussi comme en secondaire 3 où je me connaissais très bien, fait que je me suis jamais sentie comme intimidée dans ma différence. Et quand j'entends parler beaucoup de mes amis qui sont peut-être d'origine asiatique ou latino ou africaine, puis qui ont grandi depuis peut-être le primaire dans des milieux très blancs, francophones. Tu sais, ils ont beaucoup d'histoires un peu d'horreur où, ah, moi, je me suis fait niaiser avec ma bouffe, j'avais honte, là, tu sais, d'arriver avec toutes mes épices indiennes ou, tu sais, mon nom qui résonnait pas du tout. Tu sais, j'ai changé mon nom. Et moi, j'avais pas ce vécu-là tellement j'avais vécu. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un milieu, comme je te disais, hétérogène, homogène. Tu sais, hétérogène au niveau ethnique, mais homogène au niveau de l'appartenance religieuse.
Mais c'est quand même intéressant de savoir que finalement, ça a été une bonne chose.
Pour moi, ça l'a été.
C'est ouais, ça. Ouais. Mais ça a-tu fait quand même en sorte que tu savais qui t'étais, tu te sentais solide dans tes souliers,
ouais.
Mais quand même, tu t'es pas senti comme... J'aime pas utiliser le mot différence, là, mais est-ce que c'est ça qui est arrivé quand t'as changé d'école, de faire « Oh my God, finalement, là, je sens que je sors du lot, tu sais. »
Ben, oui... Et non, dans le sens où, à la fin de la journée, tu sais, je parlais français, j'avais les mêmes référents culturels, j'écoutais Watatata ou, tu sais, whatever qui jouait à la télé à l'époque, là. Tu sais, fait que reste qu'on parle le même langage à travers ça, mais j'en parle un autre dans lequel on me comprend moins. Fait que, tu sais, on était une toute petite table à Villa Maria de genre une Congolaise, une autre qui venait genre, c'était-tu de la Colombie, moi qui étais érythréenne. Et je pense que ce qu'on partageait, que peut-être nos amis québécoises de souche c'était nos parents immigrants, tu sais, qu'ils arrivent avec leur manière les plus dramatiques au monde, que tout est la fin du monde, puis on riait tellement, tu sais, de ce vécu-là. Mais après, tu sais, au niveau de culture plus large qu'on partage, évidemment que, tu sais, je pouvais parler un langage similaire avec mes amies québécoises. Puis je pense que ce qui m'a aidée, c'est que, tu sais, quand j'entends parler de certaines de mes amies noires ou latinas ou arabes, de « Ah, tu sais, mes cheveux crépus, je les aimais pas », j'ai jamais eu cette phase-là de me sentir que j'étais moins que ou que je devais. Moi, c'était comme « The curlier, the better. The bolder, the better. The dark. » Tu sais, c'est pour ça que des fois, comme je les entends, souvent, je leur donne cet espace-là de s'exprimer parce que je n'ai pas vécu cette réalité-là de me sentir moins que à cause que j'avais une couleur de peau ou un nom ou des cheveux ou de... Moi, ouais, c'est ça. En tout cas, fait que ça a été comme l'aspect positif.
Yeah, fucking cool.
Mais Villa Maria, ça a été comme... tu sais, j'ai toujours été une personne comme hyper curieuse. Fait que je pense que ça m'ouvrait mes espaces encore plus larges que je les avais connus auparavant. Puis même à MCQ, j'arrivais avec un bagage différent parce que j'avais quand même ma mère qui était québécoise, convertie à l'islam, mais québécoise de souche. Et donc, on célébrait... tous les Noëls, on allait dans notre famille québécoise à Québec, à Sainte-Foy, à Québec, pour célébrer. Et donc, j'avais toujours aussi ce métissage-là comme un décalage avec mes amis musulmans et musulmanes de cette école-là, que eux, tu sais, les deux parents venaient d'un même bagage ethnique ou culturel. Enfin, bref. Fait que là, j'étais là à Villa Maria, puis cet été-là, mon été de secondaire 4, mon père, quand je te dis que je pense qu'on est plus rusé, mes parents le sont encore plus, il y avait un camp musulman. Là, on parle 2004, fait que c'est genre après le 11 septembre. Fait que là, on rentre dans les années où ça commence à être vraiment difficile être musulman, s'afficher musulman. On est toujours là en train de s'excuser pour des événements qui se passent à genre 200 000 km de chez nous, qu'on n'a aucun lien avec, tu sais, la personne qui a...
Puis qui sont menés par, tu sais, une poignée de gens qui n'ont rien à voir avec vous, ouais. Tu sais.
Mais soudainement, fallait qu'on s'excuse, fallait qu'on se dise qu'on était modéré, fallait que... C'était lourd, là. C'était les années juste après, puis c'était... tu sais, le 11 septembre, c'est catastrophique, là, comme même quand, tu sais, à New York, là, quand tu le regardes, c'est... It's something de voir les trous, tu sais, c'est aucunement minimisé, mais le aftermath du 11 septembre sur les pays arabo-musulmans, c'est affreux, là. Genre, avec la guerre, l'Irak, l'Afghanistan, c'est énormément de traumatisme, là. Enfin, bref, en 2004, mon père... parce que, tu sais, c'est comme... Oui, on était musulmanes, puis on faisait le mois du Ramadan, on priait, mais, tu sais, on allait à la ronde, on portait nos mini-jupes. On était comme très... comme normal, si tu veux. Comme tu sais, et on avait cette identité religieuse, ma sœur et moi. Puis là, c'est ça, on mettait toujours comme un pantalon dans notre sac. Comme ça, quand nos parents arrivaient, on remettait le pantalon, puis ils sont comme « Ah, nos filles, c'est des bonnes filles! » Puis on était comme « Oui, maman! Tu sais, mais on était des bonnes filles, mais on voulait aussi, tu sais, s'amuser, s'aventurer. Puis c'est ça, l'été de mes 16 ans, mon père découvre comme un camp musulman au Nouveau-Mexique dans lequel il faut que tu aies 18 ans et plus pour aller à ce camp-là parce que l'horaire est très rigide. Il faut que tu te lèves tôt. On t'enseigne la philosophie de l'islam, l'histoire. C'est beaucoup plus in-depth que tout ce que moi, j'avais appris d'un peu de dérèglement, là, comme c'est ça l'islam, le prophète, sa vie, etc. Et mon père nous avait vendu ça en mode « Ah, oh, j'ai trouvé un camp d'activité, vous allez faire du surfing, puis... » Puis moi, ma soeur, on était comme « Go, Nouveau-Mexique, c'est malade mental, tu sais. » Puis en tout cas, puis le camp, ils sont comme « Non, désolé, nous, on prend juste des gens, tu sais, 18 ans en plus, parce que c'est très sérieux. » Puis mon père est comme « The most mature girls ever, 15, 16, most mature. » En tout cas, ils nous acceptent.
Yo, vos parents,
ça... Ah, yo, je te jure. Entre Villa Maria, puis un camp où il fallait que tu aies 18 ans en plus, parce que c'était tellement rigide. Puis mes parenthèses sur ce camp-là, c'est magnifique, parce que c'est dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Et celui qui a été l'architecte de ces mosquées-là puis du compound, c'est un architecte qui s'appelle Hassan Fadi, qui est super connu en Afrique. C'est un architecte égyptien qui a écrit un livre « The Architecture for the Poor ». Et lui, tout ce qu'il fait, c'est « handmade », like « hand smooth ». Il n'utilise pas de clous. Ou de ouais, it's a stunning sight. Ouais, fait qu'il a été l'architecte de cette mosquée-là qui ressemble beaucoup au Puebla, ou je sais pas si t'as déjà été comme au Nouveau-Mexique, tu sais, il y a des comment non. Ça s'appelle, des comme les petites, les genres de petites maisons comme mexicaine, mais okay. tu sais, comme fait avec de l'argile.
OK, oui, oui.
Enfin,
oui.
bref, ça ressemble à ça, mais ça, j'ai su beaucoup plus tard dans ma vie qui a été l'architecte de cette mosquée-là. Finalement, quand j'ai su que je m'en allais là, je pleurais, j'étais tellement fâchée contre mes parents. J'étais comme, j'en reviens pas que vous renvoyez à l'école, j'ai 16 ans, tu sais, moi, je veux juste m'amuser. Puis finalement, ça a été l'été qui a changé ma vie. Parce que, ouais, parce que c'était la première fois de ma vie que je ressentais la religion au niveau spirituel et pas juste au niveau du ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et donc, c'était là. Puis, ils étaient même pas intéressés à t'enseigner les do's and don'ts. Ils t'enseignaient vraiment la spiritualité, genre les vertus qu'il faut que t'adoptes, tu sais, le caractère qu'il faut que tu nourrisses, tu sais, comme l'amour qu'il faut, dans lequel tu dois être imbibé. Puis, j'avais jamais connu ça, tu sais, avant ça. Puis, c'est ce qui a vraiment changé comme ma trajectoire. Puis.
Mais là, c'était un camp de combien de temps?
3 semaines.
3 semaines.
Puis, en revenant de ça, moi et ma sœur, on était juste complètement changé au niveau de la spiritualité qui nous habitait avec la religion.
Et c'est pas un... C'était pas brainwash, c'était vraiment des enseignements...
Non, du tout.
Doux.
Ouais.
Puis c'est quoi les vertus?
Ben juste comme les vertus de l'écoute, du pardon, du respect. Puis même quand tu sais, comme... tellement d'enseignements prophétiques au niveau de... Puis même au niveau de comment les femmes ont challengé à plusieurs reprises le prophète sur... c'est comme des choses qu'il disait ou des enseignements ou de la mosquée, comment elle était vécue à l'époque. T'sais, maintenant, il y a plusieurs mosquées à Montréal et moi, je déplore ce fait-là où les femmes sont dans un coin, les hommes sont dans un autre coin. Mais la mosquée du prophète, c'était un espace.
Ouais.
Il n'y avait pas d'espèce de séparation entre les hommes et les femmes. Comme que tu sois femme, homme, enfant, tu étais bienvenue dans ce même espace-là. Et donc, j'avais juste jamais connu... Tu sais, comme cette grandeur-là ou cette ouverture-là avec la religion. Et
quand tu dis que ça a augmenté ta spiritualité,
ouais.
Pour toi, la spiritualité, comment elle s'incarne?
Je pense que pour moi, c'est vraiment au niveau de ton caractère. Tu sais, comment tu veux améliorer ton caractère, que tu as de l'introspection. Est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Est-ce que, OK, j'ai peut-être été dans une querelle, mais comme... C'est quoi ma part de responsabilité dans ça? Je pense qu'aujourd'hui, des fois, on est très froid. Tu sais, woke culture, c'est cancel culture. C'est tu fais une faute. Il y a même plus l'espèce de on grandit, on pardonne, on passe à autre chose, on réconcilie, un mot que j'aime.
Ouais.
Puis je pense que pour moi, c'était ça, la spiritualité. C'était de revenir à cette espèce d'introspection, de tu sais, comment j'ai agi aujourd'hui? Est-ce que j'ai été au meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai souri? Est-ce que... Quand je priais, est-ce que je me sentais connectée à Dieu? Est-ce que j'ai parlé à Dieu? T'sais, puis moi, je parle souvent à Dieu comme un ami. T'sais, comme souvent, je demande à Dieu, genre, ah, surprends-moi. Parce que j'ai beaucoup d'imagination et dans ma tête, j'ai toujours l'impression que j'ai imaginé tous les scénarios possibles, mais je suis limitée quand même. Fait que je suis comme, tu sais quoi, Dieu, surprends-moi avec quelque chose d'encore plus fantastique que je l'aurais pensé. T'sais.
Puis comment... Parce que moi, mettons, mon rapport à la spiritualité est beaucoup par rapport à l'être humain. Un
ouais.
peu comme ce que tu dis. Mon rapport à Dieu est comme inexistant.
Mm-hmm.
Et comment tu vis avec ça? Avec, tu sais, on est dans une société où j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais il y a de plus en plus d'athées.
Mm-hmm.
Mais je sens quand même une augmentation de notre génération, tu sais, d'attrait à la spiritualité,
ouais.
à la douceur, au bien-être, au partage,
ouais.
à remettre au centre, du moins au cœur, l'humain.
Ouais.
Comment tu te situes justement? Puis tu vois, mettons, on parlait de musique tantôt, mettons, gros fan de Chance the Rapper, pis tout ça,
ouais.
je t'avais vu en show, ça parle beaucoup de Dieu, gros fan de Kanye West,
ouais.
album gospel, tout ça. Fait que c'est quand même, ça fait pas que j'y... C'est pas tant, j'y crois-tu pas,
ouais.
je respecte que eux, c'est ça, puis je les
ouais.
admire malgré mm-hmm. tout. Je l'écoute pas nécessairement au même niveau qu'eux, on peut dire,
ouais,
entre guillemets.
Ouais.
Comment tu te situes par rapport à ça, tu sais, cette espèce de...
Ouais.
Des fois, décalage par rapport aux autres, mais qui fait pas qu'on peut pas bien s'entendre puis
ouais.
pas être amis, là, tu sais.
Ben, c'est drôle parce qu'il y a une étude que je lisais il y a pas longtemps qui parlait un peu comme du déclin du religieux, mais de l'augmentation du spirituel.
C'est ça.
Mais ce qui est ironique, c'est que avant, la définition de religieux voulait dire que t'étais spirituel. si tu étais religieux, tu étais forcément spirituel parce que tu étais dans une quête du métaphysique. Et donc, tu sais, quand on parle d'un moine qui est beaucoup recueilli, tu sais, qui cherche à être dans le present moment, c'est spirituel, tu sais, ou les œuvres de charité qui ont... Puis même, il y a des études qui montrent que ben, après, ça peut être débattu, mais que les personnes religieuses ont tendance à être les personnes les plus généreuses avec leur communauté parce que, tu sais, comme j'expliquais un peu, comme il y a toujours cette espèce de partage qui se fait. Puis le mot religion veut dire ce qui relie. Religare, qui veut dire ce qui relie. Et donc, je pense que des fois, il y a une fausse séparation entre on est moins religieux, mais on est plus spirituel, ou si on est religieux, on n'est pas spirituel, ou tu sais, un et l'autre. Et je pense que on peut être religieux, spirituel, spirituel, non religieux. On peut être carrément, il y a des gens, qui, on les a vus là, comme des religieux, mais qui ont y a aucun cœur, tu sais, ou qui sont dans des drames humains, tu sais, comme des tragédies, puis c'est fait au niveau de la religion, puis c'est affreux, tu sais. Mais.
C'est cette partie-là qui rend la conversation si difficile.
Ouais.
Parce qu'on finit par prendre cette partie-là, que ce soit. Puis souvent, c'est. On va plus prendre des autres religions. Je veux dire, je me sens pas tant christianiste.
Ouais.
Mais, puis on va prendre les pires histoires. Tu sais, j'ai écouté Unorthodox, mm-hmm. puis c'est comme, tu sais, c'est terrible, mais ultimement, un peu comme tu disais, c'est comme, hey, je sais peut-être, tu sais, au début, quand t'es comme, tu peux pas imposer aux autres ta vision de ce que c'est parce que t'es pas dedans.
C'est... Je pense que c'est comme, les exercices sont multiples, c'est comme on peut autant reconnaître un bagage religieux qui a été néfaste que les aspects positifs d'une religion, que le travail aujourd'hui, mettons, des féministes religieuses, que les gens qui ont décidé, tu sais quoi, moi ce bagage-là m'intéresse pas, je veux seulement être dans la spiritualité, que critiquer les spirituels qui sont phony, qui veulent juste vendre des espèces de package deal, aller faire une retraite à 5 000 $ au Bali. Tu vois ce que je veux dire?
Yeah.
Comme le phoniness, là, comme le fakeness, l'inauthenticité, c'est sur un spectrum. Il va se retrouver autant dans le spirituel décontracté que dans le religieux rigide. Et je pense que les exercices peuvent être multiples. Il peut y avoir de la coexistence entre tout. Je pense que si on revient au principe d'authenticité et de libération spirituelle, ce qui te rend heureux, ce qui te rend un meilleur être humain, ben t'as trouvé, je pense, comme les termes à ta liberté puis à ton bonheur et comment tu peux être une personne positive dans ton environnement, une personne positive dans ton environnement. Mais je pense que c'est comme... Si tu fais le choix d'être spirituel, non religieux, t'as pas nécessairement... C'est pas toi nécessairement qui détient la seule vérité vers quelque chose, parce qu'après, moi, je peux te nommer plein de gens qui t'ont vendu, tu sais, qui pour eux, ils l'ont utilisé comme un arme de capitalisme pour aller te faire vendre du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Exact.
Fait que c'est comme, le spectrum est là, et je pense qu'il faut revenir vers, tu sais, les principes d'identité, d'écoute, un peu comme ton podcast... J'ai du temps. Discute. Ah, tu sais que je te dis quelque chose tellement drôle?
Yeah.
Ma mère, arrête pas de t'appeler J-Lo.
J-Lo?
À cause de J'ai du temps. Elle était comme, ma fille va se faire interviewer par J-Lo. Je suis comme, maman!
C'est parce que les gens vont penser que c'est complètement autre chose, là. J-Lo fait des entrevues.
Oui, c'est ça. J'étais à deux, trois reprises à t'appeler J-Lo au lieu de J'ai du temps. Je suis comme, allô, il y a juste le J qui se ressemble. Le reste, c'est complètement différent.
Ah, c'est très drôle. Ouais. Je le prends, mon Dieu. C'est un honneur.
Une peau aussi belle que Jennifer Lopez.
Un jour à la mi-temps du Super Bowl, un bon podcast.
Ouais, c'est ça.
Super.
Allô, la gang!
fait que là, t'arrives au camp.
Ouais.
Et là, au début, ça te tente pas, tu pleures.
Ah, je
à quel moment dans le camp ça a switché?
Honnêtement, quand ma soeur et moi, on a pris notre vol pour se rendre au Nouveau-Mexique, et c'est tellement drôle parce que quand on était à l'aéroport, tu sais, on parle de genre 3 ans après le 11 septembre. Puis, notre père nous avait coaché, genre, quand il vous pose des questions, dites ça. En tout cas, on arrive devant les douanes américaines, puis ils sont comme, where are you going, New Mexico, why? Puis on était comme, a Muslim camp? Puis ils sont comme, go to the side right now.
Non.
Parce que ça sonnait tellement croche, Muslim camp. Tu sais, ça faisait genre camp d'entraînement, tu sais.
Oh my God.
Puis on était comme, merde! Puis on s'est fait mettre de côté, puis finalement, on était super chanceuses. Notre deuxième vol était en retard. Donc, on a pu comme faire le vol en temps. Puis, c'était tellement bizarre. On était dans le vol et ma soeur et moi, on s'est regardés puis on s'est dit, OK, je pense que ça va être un bel été. Like, it was just, tu sais, comme peut-être prémonition, là, tu sais, mm-hmm. un sentiment. Pourtant, on savait pas dans quoi qu'on allait s'embarquer. Puis finalement, dès qu'on est arrivé là, c'est magnifique, le Nouveau-Mexique. Cet endroit-là, ce site-là est magnifique. Puis à tous les jours, on prenait des marches dans les canyons. C'est The White Canyons, genre dans le Nouveau-Mexique.
Wow.
Puis on faisait des chants, tu sais, un peu comme tu sais que tu trouvais les chants des hommes juifs magnifiques sur les balcons. Également, tous les jours, il y avait des chants qui étaient comme chantés. J'avais juste pas baigné dans un milieu, tu sais, peut-être aussi appelé à la spiritualité avant cette expérience-là. Puis oui, ça nous a changé. Puis je pense que par la suite, c'est là où j'ai commencé à m'investir beaucoup plus dans ma religiosité, ma spiritualité, dans des études islamiques. Je voulais encore plus comprendre l'histoire de l'islam au niveau de la philosophie, au niveau des mouvements migratoires.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu t'es plongé là-dedans puis t'as fait « Oh my God, tu sais, j'avais moins entendu ça ou je connaissais moins ça de... »
100%. L'espace donné aux femmes. Moi, je considère que l'islam, at its core, c'est une religion féministe pro-femme, parce qu'on passe de la péninsule arabique où, avant l'islam, quand une petite fille naissait, tu l'enterrais mort-vivante parce que c'était considéré... Je parle pré-islamique, là, avant l'islam.
Yeah.
Ouais, parce que je te vois genre, « Ah, mon Dieu!
Yeah. » Non,
gang,
non,
on parle avant l'islam, OK?
OK, tout le monde, s'il vous plaît.
Ouais,
on
ça.
Écoute ce qu'on dit, là. Ouais, on se dit, ça va être à l'examen. Ouais.
Journal de Montréal demain. Les musulmans! Non.
Il y a... Très, très, très.
L'islam, c'est 1400 ans. On parle 1500 ans et genre beyond, là, tu sais.
Avant Jésus-Christ, c'est-tu ça?
Non, l'islam est arrivé 600 ans après Jésus-Christ. Okay. Fait que...
C'est quand même space que le. Y a un humoriste qui faisait un bit là-dessus sur le fait que Christians won. Louis C.K. faisait un bit là-dessus. Il disait Christians won because. What year are we in? T'sais. Puis t'es comme, ah, fuck, ben oui, tu sais, mais c'est tellement space de calculer quand est-ce que l'islam est arrivé par rapport à l'autre religion.
Ouais.
C'est juste space.
Ben, je veux dire, si t'es dans un pays musulman, ils utilisent leur propre calendrier, mais moi, je suis dans un contexte canadien-québécois et on utilise le calendrier grégorien. Donc, pour situer tout le monde, c'est vraiment plus facile de les situer.
Le calendrier musulman, il fonctionne comment?
Ah, à partir de la migration de la Mecque à Médine. Je pense.
OK. Ouais, là, je t'excuse.
Do not quote me! Mais je pense que c'est à partir de l'année où les musulmans ont migré de la Mecque, parce qu'ils étaient persécutés là.
La Mecque était... c'est la ville.
Ouais, Mecca.
OK,
la
okay,
Mecque.
OK. Ouais, parfait.
À Médine, yeah. Où ils ont vécu 13 ans là. Ben, ils ont continué à vivre là, mais le prophète est décédé 13 ans après cette migration-là. Où j'en étais?
Ouais, excuse-moi. Je fait que là, tu parlais des enfants.
Oui, c'est ça. Et ce qui m'a le plus surpris, oui, c'est qu'on passe d'une société où on enterrait les femmes mortes-vivantes en l'espace de 23 ans. On passe à une société où la femme a le droit à son consentement à un mariage, elle a le droit au divorce, elle a le droit à son héritage, elle a le droit à une parole dans la communauté. À plusieurs reprises, des femmes challengeaient le prophète sur des choses qu'il disait.
C'était reçu.
Oui, oui, 100%. Et tellement c'était difficile comme changement, parce que c'est un changement radical, on parle en 23 ans, plusieurs hommes arabes convertis à l'islam disaient « Si on n'était pas convaincu que ta parole est la parole de Dieu, jamais qu'on aurait changé les mœurs de notre société aussi radicalement à l'endroit des femmes. » Parce que c'était tellement un changement énorme de donner autant de place à la femme. Et à mon avis, ce qui a été dommage, c'est que l'islam annonçait ses couleurs au niveau du respect pour la femme à ce niveau-là. Et plusieurs de scholars, là, comme des académiciennes ou des gens qui retransmettaient, 50% des histoires du prophète sont retransmises par Aïcha, qui est la femme du prophète. T'sais. Fait qu'il y a un énorme héritage féminin dans l'islam. Mais je pense que ce qui a été dommage, c'est qu'au lieu de bâtir sur cet héritage-là et d'aller vers des horizons encore plus, tu sais, comme ouverts pour la femme, je pense que culturellement, c'est comme assis sur cette base-là. Et là, après, maintenant, on paraît un peu rétrograde, tu sais.
Où est-ce que c'est arrivé? Avec le temps, j'imagine?
Ouais, le temps. Puis je pense que la colonisation des pays, de tous les pays, là, pas juste des pays arabo-musulmans, mais de tous les pays, tu sais, les gens se sont peut-être retournés vers des interprétations. Tu sais, ils voulaient peut-être comme se trouver des moyens de se différencier par rapport à l'Occident. Et ça, c'était une manière de se différencier par rapport à l'Occident. C'était genre la protection des femmes. Mais...
Quand est-ce que le voile est arrivé? Parce que c'est ça, souvent, c'est juste le symbole, on dirait. Fait que des fois, c'est justement, c'est la peur, le manque de connaissances. Fait que les gens vont des fois dire, ah ben le voile, c'est pas féministe.
Ouais.
C'est quoi ton stand là-dessus?
Moi, 100%, je pense que tout choix et consentement de la femme est un choix féministe que tu... veuille faire ce même choix-là ou pas. Et donc, quand une femme... Et ça, c'est comme ce qui est difficile en ce moment dans le contexte québécois, c'est des femmes qui se disent, genre, moi, je suis bien dans mon voile, je me sens émancipée, puis on est comme, ouais, pas sûr. Ouais, je pense que t'es contrôlée même si tu penses que tu t'es émancipée, tu sais. Alors que ça, c'est des postures paternalistes, parce que c'est moi, je vais choisir pour toi ce qui te rend vraiment heureux. Même si tu me dis, c'est genre A... Moi, je te dis non, comme c'est B, t'inquiète, fais-moi confiance. T'sais. C'est hyper paternaliste comme posture.
Est-ce que vous trouvez ça difficile aussi quand ça vient des femmes?
Oui, 100%. Moi, je pense qu'il y a des féministes qui sont paternalistes. T'sais, comme le féminisme blanc occidental a souvent été paternaliste à l'endroit des femmes et féministes de couleur. T'sais, que ce soit noire ou que ce soit religieuse. Puis, tu sais, je parle beaucoup de l'islam en ce moment parce que je suis moi-même de confession musulmane, mais mon livre ne s'attarde zéro pas juste bon,
on est
pas, à
on n'est même pas rendu au livre.
Oui, c'est ça.
Là, on est comme, encore dans ton histoire.
Oui, dans mon histoire personnelle. C'est
qui
ça.
Est fascinant. Tout est fascinant pour vrai.
Merci.
Il y a
du non fascinant, je peux te l'assurer. Il y a des bouts longs puis plates.
Est-ce que quand tu t'exprimes comme tu le fais en ce moment, puis je te remercie de le faire parce que je te sens franche et tu le fais de manière douce dans le souhait d'éduquer selon ton expérience, tes recherches, tes connaissances. Fait que c'est vraiment... mais quand justement tu dis « Ah, ben le féminisme des fois a été paternaliste », j'imagine que des fois... Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir ce genre de commentaires-là.
Ouais.
Comment tu te sens dans cette posture-là?
Non, il faut le nommer tel que ce l'est. Puis je pense qu'il faut que ça soit reçu. Tout comme moi, je reçois le fait que les gens considèrent la religion patriarcale, je le comprends. J'essaie même pas de le nier. Puis le livre, en aucun cas, essaie de peindre un portrait idyllique de la religion, pas du tout. Je pense qu'on doit être apte à recevoir des critiques telles qu'elles viennent. Et je pense que si je fais un retour sur le Québec, je pense que c'est ce qui est de plus difficile, c'est que le Québec a vraiment de la difficulté à comme reconnaître peut-être ses torts ou... Tu sais, je me souviens, il y a quelques années qu'on parlait de genre les commissions de réconciliation pour les personnes autochtones. Ouais. J'écoutais Radio-Canada. Et je te le jure, au micro, il y avait quelqu'un, je me souviens plus du nom de la personne, a dit... Ben, c'était pas aussi pire au Québec que c'est le taux au Manitoba puis en Saskatchewan. Puis, mais c'est comme, c'est quoi le rapport? Yeah. Comme, on parle du Québec en ce moment. Pourquoi tu me parles de c'était pire dans l'Ouest du Canada? Genre, OK, c'était pire, puis on va le nommer tel que c'est l'île là-bas. Mais je pense qu'au Québec, c'est comme, non, ça a été moi la victime de l'anglophone. Je ne peux pas percevoir comment moi, je peux être un agresseur ou un dominant ou un, tu sais. Fait que je pense que pour revenir à la question, tu sais, du féminisme, non, le féminisme blanc a souvent nié les réalités des femmes de couleur, des femmes religieuses, des femmes noires. Tu sais, puis, tu sais, même quand certaines femmes de noires ou de couleur disaient « Moi, l'homme, c'est mon allié dans cette lutte contre la pauvreté. Donc, je ne peux pas faire un travail dans lequel, tu sais, comme, mettons, le féminisme radical dans lequel je m'écarte, tu sais, de cet allié-là. I need him. Tu sais, comme dans la pauvreté que je vis, comme j'ai besoin, tu sais, d'une famille composée dans laquelle, tu sais, comme... financièrement, on est capable d'aller d'avant. Je te donne ça en exemple.
Ouais, c'est un exemple. Ouais.
Mais oui, le féminisme blanc, comme et là, tu sais, comme si là, on parle un peu de peut-être ses fautes, ou mais le féminisme blanc a quand même mis sur table, tu sais, comme le droit du vote. Il y a énormément de succès qui est venu également du féminisme occidental.
C'est pas parce que t'es bon que y a pas encore matière à s'améliorer puis à apprendre. Puis je pense que ta parole est encore plus importante pour le féminisme, pour représenter le féministe en féministe en général, mais aussi pour les femmes noires de couleur qui ont besoin d'être représentées et d'être défendues.
Ouais. Puis c'est pour ça que je crois pas à un féminisme, je crois à des féminismes. Puis à l'intérieur de ce spectre-là, peut exister carrément des contradictions. Et je pense qu'il faut être qu'on soit aussi confortable avec les contradictions, tu sais. Et que pour une femme, ça va être comme la lutte pour les travailleuses du sexe. Puis une autre, ça va être sa lutte de pouvoir porter son voile. Ça peut être carrément aux antipodes, mais les deux sont valides dans la quête. T'sais, une veut vivre son travail en sécurité et selon ses termes, sans un proxénète. Et l'autre veut, dans le contexte du Québec, parce que revenons au Québec, elle veut pouvoir être enseignante en portant son voile et en sachant qu'elle peut être un modèle à sa classe sans qu'on lui dise « t'es une figure du prosélytisme où tu ne crois pas à des principes d'égalité homme-femme. » Donc, je crois à des féminismes dans lesquels je pense que plusieurs retrouvent sa voix et son agentivité. Mais je pense que, tu sais, souvent, la critique, et je la trouve valide, c'est que des fois, quand on décentralise des concepts, qu'on arrête de les hiérarchiser à une définition, par exemple, ou à une lutte, c'est que critiquer, des fois, un mouvement devient plus difficile parce que la réponse, c'est « ben, c'est « that's my choice ». Fait que je pense qu'il doit avoir comme un équilibre entre « non, il faut qu'on continue de pouvoir critiquer, poser des questions, comprendre, mais une fois qu'une femme répond à tes questions qui sont valides, crois-la dans sa réponse, tu comprends ?» Mais comme dans le livre, j'ai une phrase sur, tu sais, en ce moment, il y a plusieurs femmes qui disent, ben moi, je fais du Botox, mais c'est moi qui le veux, ça m'émancipe, je me sens belle, je me sens féminine. Je pense qu'il y a matière à ce qu'on puisse faire comme, OK, mais essayons de comprendre quelle est la culture de ces standards de beauté. Et est-ce qu'il y a une part de ça qui vient un peu du regard masculin sur la femme? Mais après, quand toi, tu me dis que tu choisis pour toi-même et que tu te sens bien, ben c'est plus à moi d'adopter une posture paternaliste pour faire comme « ouais, pas sûr ». Je pense qu'il y a quand même il y a un petit travail que tu as à faire pour vraiment te rendre compte que ça vit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un équilibre difficile parce qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des pressions sociales. Et donc, disons, pour le voile, certainement que dans certains contextes, des femmes ont eu de la pression, soit directe ou indirecte, pour porter le voile. Tout comme il y a d'autres femmes qui l'ont choisi carrément à l'encontre de leur famille, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais, il y a
Mais comme, c'est toujours, ça reste des zones grises parce que ça reste des choix personnels d'être humain. Tu sais, par exemple, pour le Botox, moi, si j'ai des amis qui me parlent, qui souhaitent faire ça, des fois, j'essaie d'utiliser moins de mots. Puis mon idée, des fois, j'essaie juste de faire... Moi, je veux juste être la personne qui te rappelle que je te trouve belle en esti, genre. La seule posture que je veux prendre, c'est celle-là.
Ouais.
Fait que je suis pas en train de... C'est ton corps, tu fais ce que tu veux.
Exact.
Sincèrement. Mon rôle en ce moment, c'est que si tu pouvais comprendre comment moi je te vois, peut-être que tu changerais d'idée, mais ça ne me regarde pas en bout de ligne.
Ouais.
Je te respecte pas moins. Y a rien de ça qui change. Je veux juste que tu saches que je te trouve magnifique.
Ouais.
Pour vrai.
Ouais.
Mais c'est tellement tough, tu sais. Mais ça reste des sujets délicats.
C'est des sujets
mais
délicats.
Encore une fois, je te remercie d'avoir pris le temps de venir en parler. Puis c'est ça qu'il faut faire, il faut parler de tout ça, tu sais. Puis d'avoir droit à l'erreur, puis de se reprendre, puis d'être dans la bienveillance. Puis ça veut pas dire que tu peux pas faire hey, là, t'as dit quelque chose qui se disait pas.
Mm-hmm.
Mais puis d'avoir une limite. Tu sais, si la personne continue de dire cette chose-là, ben oui, à un moment donné, tu peux devenir sec. Mais tant que tu es dans l'ouverture, puis le partage, puis la bienveillance, puis l'éducation, ben, chances are qu'on va s'améliorer.
Non, je suis 100% d'accord. Puis de trouver cet équilibre entre critiquer des mouvements ou une culture, c'est légitime. Tu sais, la culture de la beauté, la culture de la consommation, la culture de... Mais après, tu sais, comme... après, savoir respecter le choix personnel, l'autonomie, même si ce choix-là correspond à 100% à ce qu'on critique, tu sais, à la culture qu'on critique. Il y a quelque chose de... Mais je pense que c'est ça. C'est d'essayer de trouver cet équilibre-là. Fait que, tu sais, d'une part, il y a les critiques des religions qui est valide. Puis après ça, t'as des femmes religieuses, féministes ou religieuses, whatever, qui font des choix religieux. Il faut le respecter. Mm-hmm. T'sais? Mais on veut également pouvoir critiquer le religieux dans ses manifestations, disons, patriarcales ou inégales ou whatever. Puis tu sais, on parle du patriarcat et de la religion, mais comme je disais plus tôt, c'est que la religion, c'est tellement plus que juste, tu sais, son legs patriarcal ou son legs, tu sais, d'austérité, tu sais. Il y a, tu sais, ça, les religions ont énormément appelé à de la bonté, tu sais, à des valeurs humaines, à une conscience humaine également, tu sais. Puis moi, c'est ce qui m'inspire, entre autres, tu sais, pour moi, l'islam, c'est mon langage spirituel, mais des religions en général, comme souvent, j'adore écouter des podcasts sur les religions d'autrui, puis je trouve qu'on en apprend énormément, tu sais, comme... plus sur la conscience, sur ou des histoires inspirantes qui se sont passées dans des communautés spécifiques, mais bon.
Mais là, j'imagine que dans... Parce que là, mettons, après le camp que tu as fait, mm-hmm. est-ce que tu as poursuivi tes études?
Tu veux dire islamique?
Juste en général.
Oui, oui, ben oui. Check le gars qui est comme, t'es-tu resté là-bas?
Non, mais dans le sens, t'es revenu.
Oui, oui, 100%.
C'était après ton secondaire.
Ouais, ouais. Puis là, après, je suis devenue beaucoup plus pratiquante, religieuse. C'était aussi les années juste après le 11 septembre. C'était vraiment tough à cette époque-là. Genre, tu sais, d'être musulman affiché. J'ai porté le voile également pendant 7 ans de temps. Puis là, ensuite, ce qui a été comme une grosse révolution après dans ma vie, c'était de rentrer à l'université. Après le cégep, j'ai commencé mon bac en droit. Cause, you know, a little bit smart. Non, non, c'est une blague. Non, à l'époque...
Non, c'est une blague, mes parents ont appelé.
Non, ouais, c'est ça. C'est comme, assurez-vous que...
C'est une...
Non.
Fait que t'as fait ton bac où?
À l'UQAM, okay. En droit.
Yep.
Puis l'UQAM a vraiment été un terrain explosif pour moi, tu sais, au niveau intellectuel, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de l'anarchisme, tu sais, des concepts de décentralisé. Tu sais, avant, je pense que j'étais beaucoup comme dans la vérité, la religion, la, tu sais, comme the one, ouais. Tu sais. Puis d'arriver comme à l'UQAM qui m'a... Ça m'a tellement challengée au niveau de mes croyances, au niveau... Puis ça a été comme des magnifiques années. J'ai fait mon bac là, puis par la suite, ma maîtrise quelques années après. Puis
maîtrise c'est là, en quoi?
En droit. Mais okay. C'était... Tu sais, c'était en droit, féminisme, sociologie, comme un peu comme le livre, là.
Yeah.
Mais j'étais quand même dans le département du okay. droit à l'UQAM. Puis... ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui est venu comme... Tu sais, retravailler par la suite, tu sais, comme... Mes croyances religieuses, puis je pense que suite à ça, j'ai fait un deuxième, tu sais, j'ai fait un premier choix de porter le voile, je l'ai porté pendant 7 ans, ça a été des belles années. Tu sais, j'ai vraiment comme un rapport positif avec le voile, entre autres, c'était pour ça que quand j'entendais parler, tu sais, de charte des valeurs, je me reconnais tellement pas dans cette dynamique, parce que moi-même, je l'ai porté, le symbole religieux, puis en aucun cas, je pense que je suis dans la prêche, ou je suis dans l'austérité, ou je suis dans la froideur, ou... Enfin, bref.
J'imagine, en plus, vu que, tu sais, c'est un choix personnel,
ouais.
La première journée où tu l'as porté, tu dois t'en souvenir, ça devait être...
C'est bizarre, parce que je pense que je suis quelqu'un aussi... tu sais, qui peut être un peu comme s'adapter, prendre du temps. Fait que quand j'ai commencé à le porter, je disais, ah non, moi, je veux peut-être le porter juste comme quelques mois, un an. Je suis pas certaine. Puis je le portais, tu sais, comme style africain ou tu sais, comme... Ou t'étais pas toujours sûre si c'était un style ou que je le portais. Mais je te dirais que quand je suis arrivée secondaire 5 à Villa Maria et que je le portais, tout le monde était comme... Tu sais, parce que j'étais comme un peu le clown, genre, tu sais, comme un des clowns, pas juste le clown, mais comme un, tu sais, fait que c'était bizarre pour mes amis de me voir arriver à avec un voile.
Mais c'est cool.
Ouais, puis
encore une fois, parce que le voile te définit pas, c'est un choix personnel, la pluralité de tout ce que tu peux être.
Ouais.
T'incarnais ça.
Ouais. Puis je me souviens, une de mes amies, genre Éléonore, Charlotte à Éléonore, elle était comme « Yo, le chaman vient d'arriver! » En tout cas, ça m'avait tellement fait rire. Fait, j'étais comme « Ah, OK, c'est décontracté. » Puis je pense vite, ils ont vu que je restais la même personne, même si là, j'avais comme un intérêt plus approfondi pour
ma spécialité. Mais respectait ton choix.
Oui, oui.
Après ça, c'est de voir justement, je pense que la ligne à tracer dans cette conversation-là, c'est quand tu sens que c'est imposé.
Mais tu sais, c'est tellement intéressant le truc de imposer. Puis là, je reprends les écrits de Pascal Fournier. Ça m'a tellement aidé. Elle parle de... Parce qu'en droit, il y a vraiment le concept du consentement libre et éclairé et à la coercition. Et donc, je trouve que c'est tellement... On est tellement dans une binarité quand on parle des deux parce que rares sont les choix dans une vie religieuse ou pas où tu es 100% dans le consentement libre et éclairé. Souvent, tu es influencé par ta culture, ta situation familiale, les attentes qui sont peut-être autour de toi. T'sais. Et donc, il y a très peu de choses qui sont faites dans notre vie où on n'a pas peut-être, pas nécessairement senti une pression, mais on baignait dans une culture et c'est le choix qui semblait le plus important. Et donc, oui, certainement, il y a des personnes qui ont été forcées de porter un signe religieux ou carrément forcées de ne pas porter un signe religieux, j'en connais. Mais je pense que ce qui est la majorité du monde, c'est qu'on baigne sur un spectre entre libre et éclairé et coercition, où souvent, il y a énormément de conditions qui viennent expliquer un choix. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Qu'il soit religieux ou pas. Et pour moi, ça, c'est une des pistes de solution que je donne dans le livre parce que je dis, si on est capable de reconnaître que dans notre vie, on a choisi cette profession parce que nos parents allaient être fiers si on devenait, tu sais, comme avocat ou médecin, whatever, ou peut-être tous nos amis étaient artistes, fait que nous aussi, on avait peut-être comme un petit égo sensible, puis on a voulu... Tu vois ce que je veux dire? De reconnaître que dans notre vie... Oublie le choix religieux, là, mais que dans notre vie, les choix qu'on a faits étaient appelés par notre condition sociale, notre condition culturelle, l'ambiance politique également. Et donc, on n'était peut-être pas à 100% dans le consentement libre, éclairé, pur, tu sais, comme...
Ouais, je sais même pas pourquoi, mais tu vois, moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait que j'ai joué au hockey, mettons.
Ouais.
C'est un exemple bien banal.
T'as grandi...
Ça fait tellement... Tu sais, mon père avait joué au hockey.
Ouais.
On a grandi au Québec. Fait comme année, c'était... Puis aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir joué au hockey, mais tu sais, j'en ai pas fait une carrière.
Ouais.
Tu sais, mais on dirait que c'est l'exemple qui m'est venu en tête.
Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on en a plusieurs choix dans notre vie, ou même comme les quartiers où on décide d'habiter. Tu sais, c'est comme... Est-ce que t'aimes vraiment le quartier où tu... considère c'est le quartier comme cool de Montréal. Fait que toi aussi, tu veux faire partie de la scène cool. Tu sais, whatever que ça peut être. Puis je pense que quand on reconnaît ça dans nos choix, ben on est capable de faire le stretch, de dire, bon, ben une personne dans sa religiosité, elle aussi, ça a été influencée par sa famille, la culture, son attachement peut-être à la religion ou sa culture de back home, là, disons, whatever. Et que rares sont les cas de figure où... Mais on dirait que quand ça vient... au choix religieux, on veut toujours entendre « As-tu consenti à porter ce voile-là » ou « As-tu été forcé ?» Alors que pour rien d'autre, je trouve qu'on est aussi comme assidu sur tu sais, comme « Is it one or the other ?» Puis genre, j'aime la réflexion de la professeure Pascal Fournier où elle dit que le choix en général, incluant le choix religieux, se trouve sur un spectrum entre consentement libre et éclairé et coercition, que ça, c'est des termes très juridiques, tu sais. Et je trouve que ça l'appelle pas à la complexité de ce qu'un choix est. Donc, enfin, bref.
Ouais, c'est vraiment intéressant.
Pour revenir sur le choix.
Fait que là, à l'UQAM, ça a été challengeant, mais éclaircissant, j'imagine.
Ouais, ça a été des super belles années. Puis j'ai tellement appris sur, tu sais, ça, comme je disais, un peu. L'anarchisme, j'aime beaucoup les principes de décentralisation, tu sais, de ne pas croire.
Excuse-moi, je t'ai coupé, mais comment les principes, comment tu rallies le côté anarchiste en toi et le côté spirituel?
Ben, le côté spirituel, c'est facile parce que je pense que la spiritualité, c'est beaucoup plus fluide. Et le côté religieux, spécifiquement avec l'islam, je me rappelle beaucoup que, autre que le catholicisme, aucune religion a l'équivalent d'un Vatican, t'sais, dans lequel tout vient d'un endroit, incluant l'islam. L'islam, il y a beaucoup plus de désaccords dans la religion au niveau de comment vivent certaines parties de la religion qu'il y a d'accords. Et donc, il y a des accords sur peut-être les éléments les plus straightforward, genre prier cinq fois par jour, le ramadan, whatever. Mais sur le reste, comme je disais un peu, les contradictions existent, la complexité existe. Et donc, je pense que je me rallie à ce principe-là de des vérités versus une vérité à travers même ma religion, quand je regarde un peu son histoire, qu'on n'a jamais formé comme un endroit, comme un état d'où venaient les règlements ou les fatwas dont on peut entendre parler. Là.
Pour toi, l'anarchie, mettons, comme on en parle, c'est plus de déconstruire ou de voir de différentes manières plutôt que de voir comme une seule manière de faire.
Et je dirais, c'est ben, tu sais, l'anarchisme, c'est genre la décentralisation du pouvoir. Et donc, tu sais, comme le Canada, la fédération, tu sais, c'est comme tout est...
Yeah.
C'est l'assemblée.
C'est la reine. On aime la reine. Hein? C'est elle qui nous, tous les matins, on prie à la reine, Alex et moi. C'est très important pour nous.
Bon, dis-moi, c'est quoi ta prière à la reine? Vas-y, now, live! non, c'est ça. Fait que moi, ça m'a tellement réveillée comme ces principes de décentralisation du pouvoir, décentralisation même du concept de la vérité du un, de la figure du un, du leader, de celui qui va être le messie vert, tu sais. Puis, fait, en tout cas, ça a été comme des super belles années. Puis, éventuellement, j'ai arrêté de porter le voile, comme 7 ans après de l'avoir commencé. Ça a été très, très, très difficile l'enlever.
Ouais.
Plus difficile que de le mettre.
Pourquoi?
Ouais. Parce que je sentais que j'abandonnais comme une lutte également. Mais c'est la raison pour laquelle je l'enlevais. C'est que j'ai commencé à porter le voile pour des raisons spirituelles, mais le contexte québécois était tellement difficile que ce qui était initialement un choix spirituel était devenu une espèce de lutte politique.
Ouais.
Je vais te prouver que je suis intelligente, je vais te prouver que je suis émancipée, je vais te prouver que je suis pas soumise, je vais te prouver. Puis à tous les jours, t'es comme dans une lutte de genre, non, l'islam, c'est pas une religion de terroriste. Non, je suis pas soumise parce que je porte le voile. Et ça m'a complètement vidée d'énergie.
Je peux même pas m'imaginer.
J'étais juste plus capable, puis genre, comme plusieurs, je voulais juste être anonyme moi aussi. Je voulais plus marcher dans la rue, puis tout de suite être affichée. Puis j'ai reçu des commentaires, mais je peux pas dire que c'était mon quotidien là, de recevoir des commentaires tout croche, mais j'en ai reçu, puis c'est comme trop pas agréable. Mais au-delà des commentaires que je dirais que c'était pas mon quotidien, fait que j'ose même pas en parler, c'était plus le fait que, tu sais, comme la conception que les gens avaient de moi, puis moi qui sentais que je devais toujours lutter contre ces jugements-là. Et donc, c'est passé de quelque chose de hyper spirituel qui m'appelait vers des principes de modestie, d'humilité, à une lutte politique pour te prouver mon affranchissement, tu sais. Puis j'y arrivais plus. Fait que je l'ai enlevé quelques années plus tard parce que j'étais comme... Mais il y avait une culpabilité parce que j'avais l'impression que j'abandonnais comme mes sœurs, tu sais, comme les femmes musulmanes qui, elles, décidaient de continuer à lutter. Puis j'avais souvent cette réflexion, j'étais comme si j'étais super noire de peau et à tous les jours, mon challenge, c'était contre le racisme, pour les hommes noirs, surtout de la brutalité policière. Je pourrais jamais effacer ma couleur de peau.
Ouais,
puis je me sentais cheap que j'avais le choix d'enlever le voile. Mais je fais juste te raconter les sentiments qui m'habitaient à l'époque, puis c'est pour ça que ça a été tellement difficile de l'enlever, parce que je me disais, ah, tu sais, moi, je peux l'enlever, là, tu sais. Puis là, pas que je redeviens québécoise de souche, whatever, mais tout de suite, je suis beaucoup moins une cible qu'avec mon voile. Mais je suis comme, et si Dieu m'avait fait noir de peau, jamais que j'aurais pu, tu sais, prendre, tu sais. Fait que c'était... J'ai vraiment mis du temps à accepter cette transition que je vivais à l'époque. Là.
Et est-ce qu'en est-ce qu'en continuant tes recherches, est-ce qu'en continuant à en parler, à écrire, est-ce que c'est ce qui t'a rallié un peu à... Est-ce que c'est ça qui a fait baisser, ou du moins effacer la culpabilité? Parce que visiblement, tu sais, je veux dire, t'es ici aujourd'hui, on en parle.
Ouais.
Tu sais, fait que voile ou pas, tu
mènes le combat. Oui,
complètement.
Certainement, ça l'a aidé que j'ai continué à lutter d'une manière. C'était juste que je ne luttais plus au niveau quotidien, dans ma vie personnelle, à tous les jours, parce que là, mon identité religieuse était affichée. Mais qu'au niveau de mes projets personnels, comme ce livre-là, dont j'ai mis un an et demi pour écrire puis faire des recherches, où, tu sais, je parle même pas juste de l'islam dans le livre, mais je parle des femmes en général parce que je veux leur donner comme cette plateforme-là. Yeah. Fait que oui, évidemment, ça l'aide de savoir que j'ai pas comme abandonné puis faire comme « good luck, gang! »
Ouais, c'est comme...
tu sais, genre...
Enlève le voile, je m'ouvre une belle province. Oui. Laissez-moi toute patience. OK?
Je me mets une perruque blonde, d'attitude, là, québécoise, là. Non. Tu sais, comme, clairement, fait que je pense que les gens autour de moi ont bien vu que ça restait quelque chose. Mais comme je t'ai dit, je devais laisser le temps faire son œuvre.
Yeah.
Puis je vivais une culpabilité à l'époque. Puis, tu sais, je me considère. Peut-être plus autant maintenant, mais à l'époque, comme tu es une activiste, puis comme je pense que c'est difficile quand tu crois à la justice sociale, quand tu crois à des principes d'égalité, où tu veux vraiment voir que toutes les communautés religieuses et areligieuses, tu sais, comme puissent vivre des moments de partage, puis de symbiose ensemble, puis de sentir que tu abandonnes un peu la lutte. C'est juste difficile en général, tu sais. Puis. Mais c'est ça, avec le temps, je pense que j'étais comme... Je suis juste une personne, puis tout n'est pas sur mes épaules à moi, puis j'ai fait du mieux que je pouvais, là.
Ben, puis c'est qu'il y a ta santé mentale aussi,
exact.
À toi, là, tu sais, puis ta vie, ton quotidien, ton bonheur, il y a tes limites.
Ouais, 100%. Puis ça, c'est quelque chose que, dans les dernières années, comme ça me... Le concept des limites, c'est tellement important de savoir qu'est-ce que tu es capable de prendre sur toi.
Mm-hmm.
Puis à cette époque-là, ben, j'y arrivais plus. T'sais. Puis il fallait que j'accepte que je pouvais plus mener ce combat-là. Puis c'est dommage parce qu'à la base, comme je t'ai dit, c'était un choix très spirituel, mais c'était que le contexte politique au Québec, on parle de quelques années après le 11 septembre, on parle d'un Québec avec les accommodements raisonnables, etc., où il y a vraiment une espèce de comme peur à l'endroit, puis c'est devenu comme une lutte politique que j'ai prise sur moi, puis j'y arrivais plus, tu sais.
Et là, après tes études, qu'est-ce que tu t'es mis à faire?
Après mes études, ça a été honnêtement, là, ça a été de manifester mon plus grand rêve, qui a été celui de déménager à New York. J'étais allée à New York en 2010 dans le cadre d'une compétition internationale comme les simulations des Nations Unies.
Ah oui?
Ouais, c'est okay. Ça. À l'université, ouais.
Ah, OK. Mon ami le faisait au cégep.
OK, ça, aussi. oui. Ça,
comment ça s'appelle?
Model UN.
Oui, c'est ça, exact, absolument.
Puis c'était drôle parce que notre année-là, il y avait un crew de documentaristes qui nous avaient suivis pendant l'année complète pour nos formations, puis voir un peu comme c'est quoi les coulisses de la diplomatie. Fait que ça a été comme une super belle expérience, mais c'est la première fois que je retournais à New York en tant que jeune adulte, puis c'était comme de l'électricité dans mon corps.
C'est
là.
Incroyable, New York.
C'est incroyable.
Incroyable, New York.
Ouais.
Là, je sais que moi, tu sais, bon, je suis beaucoup d'humoristes américains.
Ouais.
Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvaient que, tu sais, New York, ça a été particulièrement difficile, la pandémie.
Mm-hmm.
Mais c'est un lieu où j'allais. Je trouvais ça, quand tu utilises le mot électrique, je suis vraiment d'accord, c'était très énergisant.
Ouais.
Puis moi-même, quand je reviens de New York, puis j'arrive à Montréal, j'ai l'impression que tout est possible.
Ouais.
Parce que c'est plus petit.
Ouais.
C'est plus à échelle humaine, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il y a. Tu sais, moi, je trouve le meilleur exemple de ça, du moins dans ma vie à moi qui s'est incarné, c'est qu'en 2018, j'ai eu la mairesse de Montréal en entrevue. Tu sais, tu fais...
Wow!
Tu sais, genre...
Ouais.
Un humoriste...
Mais arrête, J-Lo, t'es connu, J-Lo! J-Lo, t'es connu!
Mais tu comprends, il y avait quelque chose de comme... Ah, ben j'ai accès à plusieurs personnes. Je trouve qu'on a accès les uns aux autres. Chose qui, à New York, t'es comme dans l'immensité de la patente.
Mais après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement libérateur à New York. Je trouve que c'est comme... Tous les types d'êtres humains vivent là. tu sais, autant de l'excentrique à tous les jours, ça porte du glitter, puis au plus ratchet, au plus, tu sais, comme nerd de chez nerd à, tu sais, le plus religieux, le conservateur, everyone's there, tu sais, puis ça vit en harmonie.
Yeah.
Tu sais, l'un avec l'autre. Fait que ça a été juste comme de l'électricité carrément dans mon corps. Puis je me souviens, je suis revenue de la semaine, de cette semaine-là, puis j'ai été voir ma mère, j'ai dit « New York is my city and that's where I'm gonna move. » C'est à l'américaine, là. Mais j'ai mis plusieurs années à pouvoir manifester comme cette vision-là. Fait que je dirais que c'était comme... J'ai toujours fait partie des luttes, mais tu sais, New York est devenu comme mon grand, grand projet. Puis,
puis là, qu'est-ce que tu voulais aller faire là-bas?
Vivre.
Fait que t'as juste fait ça?
Ouais.
Là, je dis juste, on s'entend, là, mais c'est un major move, là, quand même, faire « OK, je me prends un appart, puis je pars. »
Ah oh non, j'avais un job. J'ai trouvé un emploi là-bas. Oui, oui, okay.
J'allais vivre.
Oh, j'allais vivre.
Merde.
Peace.
J'ai plus d'argent 2 mois plus tard. I'm back, people. Mais j'ai vécu.
That was short, but really good.
Qu'est-ce que tu t'es trouvé comme emploi?
Mon premier emploi, c'était dans une tech startup. Puis c'était tellement drôle parce que c'était une tech startup qui développait une application bancaire puis qui l'avait vendue à la banque TD puis par la suite à Manuvie. Et donc, tout le matériel, à cause que les banques, c'est de compétences fédérales, tout doit être bilingue en anglais et en français. Fait qu'il fallait qu'ils traduisent tout le matériel en français, mais l'application devait comprendre le québécois. Tu sais, comme le texting québécois. Fait qu'à l'époque, j'étais avocate et je vivais une E48 aiguë, genre...
Tu pratiquais ici à Montréal?
Ouais, à Montréal. Puis,
dans quel type de droit?
Mais la dernière firme, c'était en droit du travail, en droit constitutionnel.
Okay.
Puis côté syndical, donc beaucoup plus proche de mes valeurs, entre autres. Fait que je me donnais une dernière chance de comme pratiquer le droit. J'étais comme, bon, si j'aime pas ça alors que c'est comme...
Ouais.
C'est en lien avec mes valeurs, c'est juste pas fait pour moi.
T'as pratiqué combien de temps?
Je suis devenue avocate en 2013, puis j'ai arrêté en 2018, 4-5 ans.
C'est dur quand même, le
c'est
droit.
Tough.
Mon meilleur ami est avocat, là, puis je suis comme...
C'est rien.
Yeah, Joey Anna, je l'ai reçu au podcast 2 fois.
Okay.
Il est extraordinaire.
Ouais.
Tu l'adorais. Il est extraordinaire. Puis lui, il a travaillé en droit de la famille. Il est à l'aide juridique de Montréal.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est incroyable, tu sais, ce qu'il fait.
Ouais.
Fait que, c'est j'ai beaucoup d'admiration.
Ouais, puis c'est aussi une pratique conservatrice un peu.
Yeah,
puis très procédurale. Puis je pense que je suis tellement plus comme éclatée que cette profession-là, et j'étais juste pas heureuse, point à la ligne, même si le droit m'intéresse clairement. Tu sais, le livre, j'ai...
On y arrive au livre, on arrive la gang, ça va long.
Restez avec nous, s'il vous plaît. Je fais jamais ça, genre. Ça paraît que je suis pas en entrevue souvent, j'arrête pas de regarder la caméra.
C'est parfait. Fait que là, t'as fait, OK, c'est plus pour moi, le droit.
Ouais.
Fait que là, tu t'es tournée vers... Comment te chercher, là?
Non, c'était dans une E48 aiguë de genre, j'haïs ce que je fais. Puis j'ai littéralement, puis rendu là, j'avais comme passé mon barreau. J'avais été faire les examens du barreau de New York. J'avais été faire ma common law. J'ai fait énormément d'étapes pour manifester New York, mais ça se passait juste pas. It just wasn't working out.
Tout ce que avocate à New York.
Ouais, et rien fonctionnait. J'ai été faire ma common law. J'ai été faire les examens. J'appliquais. Rien fonctionnait dans ce que j'essayais. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi, peut-être la vie favorise pas ce chemin pour moi. Il faut peut-être que j'abandonne ou que j'aille voir ailleurs. Enfin bref, cet été-là, en 2017, j'avais juste tapé New York Jobs French, juste ça, sur Google. Et là est apparu cet emploi-là où ils cherchaient une traductrice pour une application bancaire et d'autres emplois. Et là, je m'en allais taper le courriel pour dire genre « Dear, da-da-da », puis j'étais comme « Fuck it, je descends en personne et je dépose mon CV live. » Puis ça l'a bien donné qu'on était rendu à la fête nationale et j'avais le vendredi off, alors que c'était une journée de travail à New York. Et donc, je suis descendue jeudi après le travail, je me suis pris un Airbnb. Je me suis dit « Soit c'est la pire idée au monde et j'aurais perdu 200-300$, who cares, ou ça va me mener quelque part. » Fait que là, j'ai été aux 3 endroits déposer mon CV en personne.
T'es descendue à New York toute seule?
J'ai fait du covoiturage, j'ai ramené une gang avec moi. J'étais comme ça va me coûter 200 moins ton 70. Let's go! Mais covoiturage. Mais oui, yeah. Je suis descendue toute seule.
Fait que là, t'arrives là, tu droppes le CV.
Je droppe le CV, je vais aux trois endroits. Puis le deuxième endroit, c'était la tech startup. Et moi, j'étais tellement pas habituée à des tech startups où dès que l'ascenseur, les portes d'ascenseur s'ouvrent, t'es physiquement dans leur espace de travail. Il n'y a même pas de salle de réception, non. Une secrétaire. Tu sais, moi, j'étais habituée à ça, yeah. En tant qu'avocate. La secrétaire, oui, je vais le retransmettre. À l'avocat, je sais pas quoi. Puis là, il y a un gars, il est sur l'ordi, il me regarde, il dit « Peux-tu t'aider? » Puis là, je suis comme « Ouais, je suis ici pour un emploi. » Il cherche une traductrice pour du Québécois en plus. Puis là, au début, il est comme « Ah, je sais pas de quoi tu parles. » Puis il dit « Ah ouais, on vient d'embaucher une fille sur ce projet-là. Et tu sais, attends une seconde, elle va venir te parler. » Elle vient me voir, puis elle comme « Oh mon Dieu, t'es exactement ce qu'on recherche. » Elle m'a dit « Je viens de commencer il y a une semaine. » Fait qu'elle a dit « Si, if you don't mind waiting, the project manager va arriver dans une heure de temps. » J'ai dit « Girl, I just did 7-hour driving. I don't mind waiting. » Là, elle me dit « I'll never forget this day. » C'est genre, c'était magique, oui. Dans ma vie. Puis elle me dit « Ah, il y a un bar à salade pas loin, tu sais, tu peux aller prendre ton lunch. » Je dis « Ah, parfait. » Là, je suis en file d'attente, une super longue file d'attente. Je commence à parler avec le gars devant moi. Il est hyper inspiré par l'histoire parce que lui aussi, il cherche à peut-être comme changer d'emploi. Puis il était devant moi. Quand il arrive à la caisse, il se retourne. Il dit « It's already been paid for. Welcome to New York. I hope your interview goes great. »
Wow!
C'était sublime. C'était juste comme magique.
Wow!
Puis là, je suis revenue à l'entrevue, nailed it, puis j'ai eu le...
J'adore cette histoire.
Ouais. À la New-Yorkaise, là, tu sais.
C'est donc bien cool.
Ouais.
Fait que là, t'es revenu et là, t'as discuté avec le...
Puis 10 jours plus tard, j'avais l'emploi, le visa, tout, là. Ouais.
10 jours plus tard, tu bougeais à New York?
Non, pas pour de bon. Parce okay. qu'à la base, le projet était juste temporaire, 3 mois.
OK.
Puis au début, j'avais des visas de 3 mois, puis j'étais comme, ah, je pense, tu sais, c'est peut-être pas assez stable pour moi de faire un déménagement complet de Montréal yeah. à New York pour 3 mois. Puis finalement, quand ils m'ont donné un visa d'1 an, je suis comme « I'm out ». Fait qu'en 2018, j'ai déménagé à New York, mais comme pendant peut-être un an et demi, je faisais comme aller-retour New York-Montréal. Et finalement, j'ai quitté mon emploi à la firme, puis j'ai continué avec eux. Puis c'est ça, quand ils ont eu Manu V, ils sont comme « OK, là, vraiment, là, comme on a besoin du matériel en français, là, on a plus de banques. »
Wow! T'habitais ouais. Direct à Manhattan? Ou?
Ben, à chaque fois, j'étais chez une amie différente.
OK.
Fait qu'une fois, j'étais dans Harlem, une autre fois, j'étais dans Midtown. Fait que je bougeais un peu. Puis d'autres fois, je prenais des Airbnb, là. Et puis finalement, j'ai fait le choix d'habiter dans Brooklyn parce que Manhattan, tu sais, là, on est en pandémie, ça a tellement changé. Mais à l'époque, c'était go, go, go. Fait que j'étais comme, OK, la semaine, je suis dans le go, mais la fin de semaine, je veux être dans yeah. culture, soul, etc. Puis
Brooklyn, c'est extraordinaire.
Ah, j'adore. C'est incroyable. Ouais. Puis non, c'est ça. Puis après ça, ça a été comme des années. C'est sûr, je continuais comme dans les luttes, mais je dirais que peut-être après ça, je suis rentrée un peu plus dans comme qu'est-ce que Dania veut, qu'est-ce qui la rend heureuse. C'est comme moi là, tu sais. Puis des fois, je pense que quand on est comme un activiste, on pense tellement au bien-être de la collectivité qu'on s'oublie un peu dans nos besoins à nous. Yeah. Fait que j'ai ressenti ça pendant quelques années. Puis vraiment, j'étais comme, tu sais, j'étais connue genre, ok, connue c'est un gros mot là, mais comme disons que les plateformes des réseaux sociaux, j'en profitais souvent pour annoncer toutes mes couleurs politiques. Tu sais, je faisais des statuts, je critiquais à droite puis à gauche, tu sais. Puis après, pendant plusieurs années, j'étais juste comme dans le silence complet. J'étais comme « Non, j'ai juste besoin de m'effacer un peu. » Puis je suis tout ce qui se passe, puis tu sais, je vous appuie, mais j'ai besoin d'un peu de recul. Yeah. Puis ça a été dans ces années-là où tu sais, j'ai fait mes transitions vers New York. Puis ma première année, j'étais comme « I just want to live this energy. » Puis je dirais que après, comment je suis retournée un peu dedans, c'est comme « OK, j'ai encore... » C'est ça, quand il y a eu l'adoption de la loi 21, que c'était comme reparti, mais que là, il y avait vraiment une législation autour de ça. Je suis comme « OK, moi, j'ai un gros corpus de recherche avec mon mémoire de maîtrise. » Fait que là, j'ai voulu le convertir.
Ton mémoire de maîtrise, c'était quoi?
C'était sensiblement sur la même chose, mais beaucoup plus académique. C'était carrément mon titre, c'est « Les réconciliations possibles entre la liberté de religion et l'égalité des sexes ».
Extraordinaire quand même. Ouais. C'est un fucking bon titre.
C'est un bon titre, hein?
Yeah.
Mais j'aime aussi les malentendus UES.
Ouais.
Parce qu'il y a un double sens.
J'adore.
Ouais, moi aussi,
les malentendus qui est ton livre.
Qui est mon livre, okay. Ouais.
Là, on arrive au livre encore une fois dans un instant.
Restez avec nous.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait, quand la loi 21 est passée, c'est que tu as fait, OK, je reviens à Montréal, ou tu étais déjà de retour?
Non, je suis à New York depuis...
Encore?
Okay, oui, je suis encore. Ouais, ouais, ouais.
T'as-tu fait 7 heures de char juste pour moi? Non.
You already know.
Je te paye ta salade.
Wow, la rêve québécois.
Welcome to Saint-Jacques-le-Mineur.
Le rêve en région, wow.
Mais, OK, fait que là, depuis, t'habites et là, tu te promènes un peu.
Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Surtout avec le livre qui a été publié, mais je me suis toujours promenée, honnêtement. Okay. Tu sais, ma famille, mes amis sont ici, fait que je reviens souvent, c'est juste 7 heures de route. C'est pas si pire.
Extraordinaire.
Mais oui, oui, non, je suis encore à Brooklyn, ouais, ouais.
Malade. Ouais. Et là, tu travailles encore...
Non, la tech startup, j'ai travaillé là 2 ans et demi. Puis pandémie, perdu mon emploi. Quoique, en tout cas, il s'était passé une couple de choses, mais non. Puis là, après, c'est tellement intéressant, la pandémie, c'est la première fois, c'est ça, parce que j'ai mis 5 mois avant de retrouver un autre emploi avec Vice Media, Vice Brooklyn.
Ouais.
Ouais, fait que je travaille pour eux en ce moment.
Fucking
ouais.
Badass, non?
J'adore.
Vice sont cool.
Ils sont incroyables. J'adore les reportages qu'ils font, le type d'histoire qui les intéresse. Puis c'est tellement drôle parce que quand j'étais arrivée à New York, j'ai toujours aimé Vice. Puis sur mon mood board, mon numéro 2, c'était Work for Vice.
Allez donc.
Fait que c'est arrivé genre peut-être 2-3 ans après mon déménagement. 2 ans, ouais.
Fucking cool.
Ouais, ouais, non, c'était vraiment, vraiment nice. Mais c'est ça, pendant les mois où j'avais pas d'emploi, j'ai commencé à faire comme du travail communautaire, tu sais, faire des épiceries, les déposer chez les personnes aînées. Puis j'avais pas fait ça pendant tellement longtemps. Puis je trouve que c'est ça qui m'a replongé un peu peut-être dans le collectivité, activisme. Puis on avait un grand besoin, là, tu sais, surtout en début de pandémie, là, pour...
Wow!
Ouais.
Fait que là... est-ce que c'est quand la loi 21 a été malheureusement adoptée, c'est à ce moment-là que tu t'es mis à l'écriture du livre?
Non, c'était avant parce que j'ai toujours su que je voulais que ça soit converti. Je voulais que cette recherche-là devienne un livre, mais que j'enlève toute la formule académique. Je voulais vraiment que ça soit lisible et facile d'accès au public québécois parce que je trouvais que j'avais vraiment fait une belle recherche. Puis comme je proposais énormément de pistes de solutions aussi, tu sais, pour arrêter de vivre dans cette espèce de méfiance, de tension irréconciliable. Ou de, et donc, c'est ça, j'avais participé à des concours, j'étais sûre que j'allais gagner. Là, j'avais déjà mon Facebook status, IG status préparé. Je suis comme heureuse de vous annoncer que... Non, j'ai clairement pas gagné.
Oh man, c'est des bonnes leçons de vie.
Exact.
Hein?
Humilité, humilité.
Ah
ouais.
Man,
ouais,
je comprends tellement.
Puis non, finalement, tu sais, j'ai pas gagné. Puis au début, j'étais comme, ah, ben, tu sais, peut-être je peux laisser tomber l'idée du livre. Puis j'étais comme, non, genre, j'ai vraiment le goût d'écrire un livre. Fait que là, j'ai été écrire à plusieurs maisons d'édition. Puis sérieux, ça, je veux juste faire une parenthèse sur, tu sais, les gens qui veulent se faire découvrir, qu'on arrête cette espèce de mythe de genre, je veux me faire découvrir, genre, vas-y, fonce vers, tu sais, comme, mets-toi sur scène, tu sais, sur avec ton talent. Fait que c'est moi qui ai été écrire à des maisons d'édition à Montréal pour dire, genre, j'ai fait telle recherche, je pense que c'est vraiment important dans le contexte politique au Québec et même le contexte national au Canada, parce que j'en parle également dans le livre. Puis la plupart me disent, ah, il faut que tu t'écrives le livre en premier, puis ensuite on va le considérer. Puis Remue Ménage a été, qui est une maison d'édition féministe, qui a été la seule maison d'édition qui m'ont dit, ben écoute, on va lire ton mémoire, puis si ça match bien avec nos intérêts, ben on va faire le travail ensemble. Finalement, ils sont revenus puis sont comme, ah, tu sais, ça a été une super bonne recherche, puis ça serait comme excellent dans le cadre du, tu sais, de la province du Québec. Ben, ce qui se passe ici, en fait.
There you go.
Fait que là, j'ai eu mon contrat en mars 2019, puis en juin 2019, la loi 21 adoptait. Fait que là, je sentais encore plus une nécessité pour ce livre-là d'exister. Et l'ironie, c'est que il a été mis en librairie, dans le sens comme public, la journée que le premier jugement sur la loi 21 sortait. Tu sais, le jugement de la Cour supérieure, là, qui est sorti le 20 avril dernier, mon livre sortait le 20 avril dernier.
Oh my God!
Ouais, fait que le timing pouvait pas être meilleur, tu sais.
Oh my God!
Ouais.
C'est donc bien paradoxal.
Ouais. Puis j'avais, genre, au niveau comme prémonitoire, je sentais qu'il allait peut-être avoir comme une coïncidence entre les dates parce que les audiences avaient terminé en décembre. Puis là, on tardait, là. Ça faisait comme 4 mois, tu sais. Ouais. Le jugement n'était pas sorti. Mais jamais que je pouvais penser que ça allait être le même jour.
Évidemment.
Ouais, le 20 avril 2021.
Puis, comment... Parce que je sais qu'on a parlé de plein de trucs, puis il y a des trucs, t'es comme, hey, ça, c'est pas dans le livre, tout ça. Fait que le livre, c'est l'angle, il est plus vers les solutions.
Ben, c'est sûr que je parle des déconstructions avant d'arriver aux réconciliations possibles. Entre autres, les déconstructions que je fais, c'est par rapport aux religieux, aux phénomènes religieux, comment l'immigrant vit sa religiosité, comment ça peut être un aspect hyper positif dans sa vie. Et donc, il y a comme un énorme travail de recherche qui a été fait à cet endroit-là. Et
avec, pour... Quand tu dis énorme travail de recherche, c'est te rencontrer...
Non.
C'est
non.
Dans des livres,
ouais, ouais, ouais.
Dans
des études sociologiques qui ont été faites. Puis, tu sais, je fais confiance à l'étude qui a été faite. Puis, tu sais, je regarde les églises pentecôtistes africaines, les églises coréennes également, les temples sri-lankais, sikhs à Montréal, les mosquées. Un peu moins les synagogues au niveau de terrain juridique, plus au niveau de la théorie, comme, tu sais, comme qu'est-ce qui est important pour eux au niveau du legs. Mais je regarde comme les religions en général et les communautés religieuses en général en Amérique du Nord. Et cette déconstruction-là est importante pour moi à cause du sentiment ambiant au Québec à l'endroit des religieux, des religions, à quel point c'est quelque chose de négatif. Et donc, moi, je voulais aller faire aussi un travail de dire, genre, je comprends ta crainte, mais viens, je vais te montrer aussi comment c'est vécu dans ces communautés-là et comment ça a favorisé l'intégration, comment ça a aidé tellement de personnes qui vivaient dans une solitude horrible, tu sais, suite à une immigration ou whatever que c'est, puis qui ont trouvé une communauté à travers, tu sais, comme le temple, à travers la mosquée, à travers l'église, à travers, tu sais, donc ramener un peu comme d'humanité, de couleur et de chaleur, comme j'expliquais un peu plus tôt. Donc ça, c'est mes premières déconstructions.
Okay.
Là, une autre qui est énorme, c'est que tu me parles des tensions irréconciliables entre ces deux droits-là. Allons voir dans les jugements. Is it true? Fait que j'ai été faire une recherche d'au-delà de 300 jugements, tu sais, comme canadiens. Oh,
wow.
Ouais. Bon, je file très vite, là.
Yeah,
comme,
oui.
Tu mets tes mots-clés, puis t'es comme boum, 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 ça fonctionne pas. Ah, tu sais, fait que j'ai pas lu 350
mais
jugements.
Quand même.
Mais on peut faire assemblant si ça me donne plus de crédibilité. Non. Mais j'ai pas lu, mais tu sais, j'ai été regarder au-delà de 350 jugements. Là-dedans, il y en avait peut-être juste une trentaine où il y avait vraiment un enjeu entre ces deux droits-là, tu sais. Et dans ces enjeux-là, des fois, c'était une même partie qui revendiquait autant son égalité des sexes et sa liberté de religion que d'autres jugements où c'était deux parties qui s'opposaient. Un revendiquait liberté de religion, l'autre revendiquait principe d'égalité. Et donc, on voit que même dans les jugements canadiens, il y a carrément une section où il y a une réconciliation possible parce qu'une même partie a dit « Écoute, moi, je suis femme et je suis religieuse. » Accorde-moi, tu sais, mon espace à vivre ces deux-là. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'était ma deuxième déconstruction de dire, tu me parles d'une tension irréconciliable, let's go see. Tu sais, puis moi, je trouvais qu'elle n'était pas là. Oui, elle pouvait se manifester dans certains contextes, tout comme dans d'autres contextes, c'était une même partie qui disait, genre, tu me brimes autant mes deux droits, tu sais. Puis on le voit en ce moment avec le cas qui va monter certainement à la cour d'appel sur la loi 21, c'est Hack contre Québec. Et Hack, c'est une étudiante en éducation qui porte le voile, qui pour elle veut rentrer dans cette profession-là. Et pour elle, elle se revendique autant de ma liberté de religion de porter mon voile et mon droit à l'égalité des sexes de pouvoir travailler au même titre qu'une autre femme ou au même titre qu'un autre homme. Et elle revendique les deux ensemble. Et donc ça, c'est une deuxième déconstruction. Et à travers ça, j'ai choisi dans les deux camps, autant la tension que réconciliation, comme 3-4 jugements que je trouvais comme symboliques. Et ce qu'on réalise dans les cas de tension, dans les cas où deux parties différentes, une revendique égalité des sexes, l'autre revendique liberté de religion, à chaque fois, à moins que la preuve soit comme vraiment, vraiment mal faite, la cour protège les femmes. La cour protège l'égalité des sexes. Et donc, que ça soit dans le cas de Brooker contre Markovitch, qui est une femme juive qui voulait son divorce religieux et qui l'a obtenu, genre, je pense, 13 ans après son divorce civil, la Cour suprême a protégé le droit de cette femme-là. Quand ça a été le cas de l'hôpital juif qui avait affiché un poste pour un préposé aux bénéficiaires, mais qui voulait juste un préposé homme et qui l'avait mis au masculin, fait que c'est allé en cours. Ils ont protégé l'égalité des femmes. Non, vous devez revoir votre règlement. Quand ça a été un autre cas...
À l'hôpital. Yeah.
Quand ça a été un autre cas sur l'avortement, qu'un homme venait toujours, un homme chrétien qui venait toujours manifester devant les centres d'avortement, et ça, c'était hyper pénible pour les femmes qui s'en allaient, tu sais, comme chercher ce service médical-là, protéger le droit des femmes. Quand ça a été la polygamie en Colombie-Britannique, où il y avait des groupes qui disaient « On veut décriminaliser la polygamie parce que nous, on est des Mormons, nous, on est des musulmans, nous, on est des Wiccans, et on veut vivre cette polygamie-là. » La Cour a protégé le droit des femmes. Et donc, on voit même que dans des cas où il y a une tension, quand la preuve est faite, les femmes sont protégées. Donc, pourquoi me parles-tu de « La Cour va protéger les religions si... » Non, comme on le voit que dans les faits, quand il y a une question de tension et quand la preuve est faite, la femme est protégée. Je ne dis pas peut-être dans tous les cas, mais dans les cas que moi j'ai vus, les femmes ont été protégées. Par contre, dans les questions de réconciliation, ce n'est pas toujours le cas. Quand une femme revendique des deux, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a eu le cas que moi je trouve qui est le plus tragique, qui est le cas d'une femme qui porte le niqab.
Niqab, ça, c'est on voit juste les yeux.
Exact.
Voilà.
Qui, elle, portait plainte pour agression sexuelle à l'endroit de son oncle. Et je ne sais pas si c'était un oncle et un frère. Désolée, j'ai oublié. Certainement un oncle, des membres de sa famille.
Ouais.
Et dès la première instance, il y a eu un conflit. Ils sont comme, la victime doit témoigner à visage découvert. Et elle disait, ben, liberté de religion, moi, je me sens beaucoup plus confortable avec mon niqab. Et c'est monté jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême, au lieu de se dire, c'est tellement plus important pour une femme de témoigner, même dans un espace alternatif qui n'est pas celui de genre visage découvert, nanana, whatever, c'est tellement, étant donné que c'est tellement rare que des cas se rendent en justice et qui sont judiciarisés, que c'est ça l'importance.
Ouais.
L'importance, c'est d'offrir un espace aux femmes, donc égalité des sexes, tu comprends, comme ouais. égalité de chance, égalité d'opportunité, comme ils ont eu un jugement dans lequel, au lieu de se pencher réellement, sauf la juge Abella qui a eu une lecture genrée de ce cas-là, la Cour suprême n'a pas voulu trop se mouiller parce qu'on s'entend que c'est un des symboles les plus, tu sais, comme les gens ont une réaction épidermique, là, comme quand ça vient au niqab. Et on peut le comprendre parce qu'on ne voit pas le visage. La Cour suprême a juste établi un test auquel tu dois répondre à des questions. Et que ce test-là est retourné au juge de la première instance. Et le juge de la première instance a dit, « Bon, ben moi, j'ai répondu aux questions et je considère qu'il faut que tu enlèves ton niqab si tu veux témoigner. » Elle a retiré sa plainte. Tu sais? Fait qu'on voit que quand on est dans un cas où une même femme a dit accès à la justice, je veux avoir mon égalité d'accès à la justice et pouvoir, tu sais, comme respecter ma religiosité, au lieu d'avoir une sensibilité étant donné le cas grave, on ne l'a pas eu, tu sais.
Fuck.
Ouais. Moi, ça a été un des cas, je trouvais ça vraiment difficile.
Mais je peux, encore une fois, pas m'imaginer.
Ouais.
Avec raison.
Ouais.
C'est tragique.
Ouais.
Puis là, est-ce que tu sens une ouverture à ce que la loi soit retirée ou changée?
Avec la CAQ au pouvoir, je sais pas. Je trouve ça difficile. Puis en plus, il est tellement fier de dire 70% des Québécois supportent la loi, mais on s'en fout. Si la loi est discriminatoire...
Oui, là, faut pas se vanter de ça.
Ouais, en quoi t'es heureux d'avoir adopté une loi qui est discriminatoire, tu sais? Puis la Cour d'appel également... mais ça, c'était il y a un an et demi, mais c'était parce que la première étape qui avait été faite quand la loi a été adoptée, c'était ils sont allés en cours pour suspendre les effets de la loi. Ils n'étaient pas sur le fond, là. Ils étaient juste comme au niveau de suspendre les effets. Finalement, ça n'avait pas été suspendu parce que les deux juges à la Cour d'appel a finalement statué que clause dérogatoire, là, ils n'allaient pas suspendre les effets de la loi. Puis un des juges, le seul juge masculin sur le banc, qui est comme, ouais, ben, désolé, je l'ai paraphrase et je lui donne un accent, là, puisque j'ai tellement pas aimé ce qu'il dit. Mais tu sais, il a fait de la théologie, puis il dit, ben, les religions vous ordonnent pas vraiment de toujours mettre votre voile, là, ou votre symbole religieux. Là, vous pouvez l'enlever, mais c'est comme, t'es qui, toi? T'es un juge, t'es pas un théologien, t'es qui pour venir dire, interpréter une religion, à savoir, c'est quand tu peux ou ne pas mettre un symbole religieux. Si la personne te dit, moi, je veux la mettre en public en tout temps, point à la ligne, c'est pas à toi de faire le prêtre ou le rabbin ou l'imam ou je sais pas quoi, tu sais. Enfin, bref, mais tu sais, ouais, c'est je sais
vraiment,
pas,
je suis vraiment content qu'on en parle. Ouais. Je suis vraiment content que tu sois là parce que c'est... mon ami Charles Pellerin qui faisait ma première partie, c'est un humoriste que je trouve vraiment brillant. Il y avait un numéro là-dessus quand la loi est passée. Mmh. Puis il faisait un numéro en première partie. Il l'a fait à Juste pour rire, si je ne me trompe pas, l'année dernière ou l'autre année d'avant. Puis où justement, tu sais, il était comme... Je dirais pas ces jokes-là, aller voir le numéro, mais c'était un super bon numéro. Justement, ouais. Il était comme... Tu sais, j'ai eu un prof tout mon secondaire qui avait un t-shirt des Cowboys fringants. Je suis pas devenu les Cowboys fringants, tu sais. C'est une joke, mais en avant pour moi, c'était comme...
Mais c'est essentiellement ça, ouais. Ouais, tu sais, c'est comme la neutralité qui, entendons-nous, c'est pas la neutralité, c'est la normalité. Tu sais, parce qu'une neutralité, c'est dans tes actions. Une normalité, c'est puisque 90% des Québécois, toute ethnie confondue de souche, whatever, ne portent pas de symboles religieux, en porter un fait de toi comme une... anormalité, tu comprends? Ouais. Fait qu'on te demande d'être normal. On te demande pas d'être neutre. Parce que, je veux dire, si on regarde, mettons, la Cour suprême des États-Unis, la juge Amy, j'ai oublié son nom de famille, mais qui affiche ses couleurs, qui est anti-avortement, ultra-conservatrice, mais d'apparence, elle est d'apparence neutre. Mais dans les faits, elle ne l'est pas. Elle est tellement... Elle affiche ses couleurs en étant... C'est comme ultra chrétienne, anti-avortement. Et donc, les gens ont peur du renversement de Roe versus Wade, tu sais, qui a été le jugement qui a donné les droits aux femmes de pouvoir avoir accès à des services d'avortement. Mm-hmm. Mais désolée, je ne sais pas pourquoi on parlait de... Ah oui, c'est ça, des déconstructions. Ça venait, c'est ça, comme... Là, je rentre dans le côté légal et du droit. Allons voir, effectivement, dans le droit, est-ce que c'est le cas de l'attention? Et moi, je trouve qu'au niveau de quand on parle d'une partie versus l'autre, moi, je trouve que les cours ont été formidables de protéger le droit des femmes versus la liberté de religion et... À raison, là, tu sais, ouais. Comme surtout quand la preuve est faite. Là. Il y a eu des cas où les preuves étaient comme mal faites, fait que tu sais, c'est vraiment difficile de pouvoir.
Mais puis... là, est-ce que tu crois que, mettons, bon, là, ton livre est sorti en avril,
ouais.
On enregistre ça, on est le 4 juin exactement.
Ouais.
Est-ce que les gens t'invitent? Est-ce qu'on t'entend en parler? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque. Tu sais, est-ce que tu as l'impression aussi que. What's next? T'sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler pour que ça puisse changer. Ben... Est-ce que tu sens... Pas à qui la faute, là, c'est pas ça la question que je veux te poser, mais c'est en parlant plus... Parce que les médias ont un gros pouvoir sur ce qui se passe. Là.
Énormément. Les médias québécois ont créé cette réalité de tension. Fait que je pense qu'on parlait, on partait de comme quelques événements... Tu sais, qui dérangeait peut-être le public québécois, on en a fait comme les événements, tu sais, qui représentaient peut-être ces communautés-là au niveau de, mettons, le YMCA, quand les Juifs assidiques ont demandé de givrer certaines vitres ou bien certaines cabanes à sucre qui offraient pas de jambon pour accommoder, mettons, des musulmans qui venaient. Mais on prend comme quelques cas pour en faire comme... sont déraisonnables, leurs accommodements, etc. Puis je pense que les médias ont... vraiment pas favorisé, tu sais, comme... Surtout comme avec une population au Québec où il y a déjà une méfiance à l'endroit du religieux, fait que ça l'aide pas par la suite de toujours mettre l'éclairage sur, genre, les pires histoires, là, tu comprends? Ou comme, ne même pas donner de contexte à ces histoires-là. Mais on a contacté les médias, j'ai eu quelques entrevues, celle-ci étant... ma plus importante et ma plus grande.
Let's
donc, merci à toi.
Go, let's fucking go. Share ça, les amis. Il faut que ce soit entendu, là.
Puis, j'ose espérer, moi, ce que j'aimerais vraiment, ce serait à partir de l'automne ou l'hiver prochain, de faire comme une tournée québécoise dans les cégeps puis dans les universités pour aller parler à la jeunesse québécoise, parce que pour moi, c'est le changement arrive là. Pas que les baby boomers ne peuvent pas changer, mais je pense que rendu à comme 60 et plus, c'est juste tellement difficile de remettre en question peut-être tes habitudes de vie, ta manière de penser. Puis pas que ça se fait pas, mais c'est juste...
Non, exact. Mais aussi, c'est que la jeunesse est là pour ça.
Ouais.
Elle est là pour nous ouvrir les yeux, changer les choses. Je les appelle les jeunes. Je me considère dans la gang, là, tu sais.
Ouais.
Mais c'est à notre tour. C'est nous autres, là.
Ouais.
C'est rendu notre terrain, là, tu sais. Puis en restant ouvert à l'écoute des gens qui ont plus d'expérience que nous, puis qu'on a tout à apprendre.
Ouais.
Mais c'est là, je pense... En tout cas, moi, j'adore de trouver l'équilibre entre la fougue de la jeunesse, là, puis la nouveauté, puis poser des questions sur tout. Puis l'expérience.
Ouais.
Tu sais, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, tu sais.
Ouais, non, 100%. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que le seul groupe démographique dont on entend peu parler au Québec, et corrige-moi si toi tu penses le contraire, mais c'est les jeunes en région. On entend parler les boomers en région, les jeunes en métropole ou les boomers en métropole, mais je ne sais pas ce que pensent les jeunes en région. Et donc, je serais très curieuse d'aller voir comme les cégeps ou les universités. Là, il y en a peut-être pas autant, là, mais comme les cégeps.
Il y en a plein, tu sais. Puis, tu sais, on a eu la chance de faire la tournée, tu sais, avec. Je faisais mon one-man show, mon premier one-man show, on s'est parlé partout, tu sais. Puis. Tu arrives à Chibougamau, là, c'est une autre réalité, mais il y en a là, des gens, là, des Daniels, des gens curieux, des gens...
Ouais.
C'est, leur réalité est, oui, différente, mais pas tant que ça.
Ouais, ouais.
Tu sais, de la nôtre, et il y a, tu sais, de la... Je sais pas, de la jeunesse, je peux pas parler pour eux parce que je les connais pas, puis c'est pas ma réalité. Mais pour en avoir rencontré, tu vas partout... Il y a du monde motivé, puis du monde ouvert. Puis maintenant, le monde est rendu petit, là.
Ouais,
avec Internet, là. Avant, c'était moins le cas.
Ouais.
Mais aujourd'hui, il y a sûrement quelqu'un en ce moment qui hurle dans son char comme « Dude, je suis à fucking Côte-Nord, puis je vous écoute, puis je suis d'accord.
Ouais. » Shout-out à la Côte-Nord.
Let's go, tu sais. Fait que...
Mais... Non, puis un pote me disait il y a pas longtemps que pour la première fois, le groupe des Gen Z Millennials, démographiquement, on vient de surpasser les baby boomers.
Là, attends, Gen Z Millennials, c'est quoi ça? Gen Z?
Ouais, la génération Z, là.
Ah oui.
Ouais, okay, pardon.
J'avais jamais entendu Gen Z.
Ah ouais, c'est comme les 22 et plus jeunes.
J'avais entendu génération Z, mais...
Génération Z, c'est ce que je veux dire, ouais.
Vrai, je cherchais le mot, mais
désolé,
en le disant, je l'ai compris.
Ouais.
Tu vois, en ce moment, je suis gênée.
I got you. la génération Z, puis les milléniaux, on vient de surpasser pour la première fois... les baby boomers. Et donc, on peut aussi avoir une espérance que politiquement, les politiques adoptées vont commencer à plus refléter notre groupe démographique, si on vote, évidemment. Le problème étant que les baby boomers est une génération qui vote beaucoup plus et qui prennent un peu leur devoir de citoyen plus au sérieux que, disons, les plus jeunes. Là.
Yeah.
Mais si on devait vraiment faire comme cette implication au niveau de notre intérêt pour la politique... Il y a espoir de voir que... Parce que, tu sais, la politique, c'est toujours un reflet du groupe un peu démographique. Et entre autres, c'est pour ça qu'il y a des lois comme Charte des droits et libertés, tu sais, comme canadienne, pour venir protéger les minorités. C'est ça le but, tu comprends? Parce que l'Assemblée nationale, souvent, elle vient représenter la majorité. Donc, c'est facile d'adopter des lois pour... les riches, pour les... Tu comprends? Je parle même pas au niveau minorité ethnique. Je parle carrément, genre, de mettre la réalité de la pauvreté parce que tous les représentants viennent de des milieux aisés, par exemple. Tu comprends? Et c'est là où une loi peut être violente à l'endroit de ceux qui sont marginalisés, que ce soit au niveau racial, que ce soit au niveau social et capital financier, enfin bref. Mais donc, de savoir que notre génération, on vient démographiquement de le surpasser, on peut avoir, je pense, comme commencer à espérer que les politiques mises en place vont plus refléter notre réalité, notre vécu, notre désir d'avoir un monde beaucoup plus métissée, interculturelle, dans l'écoute, moins dans la méfiance, mm-hmm. Tout en, tu sais, acknowledging ou en reconnaissant le travail fait des générations. Tu sais, yeah. Je pense que comme en adoptant une posture où je veux des nouvelles politiques, je suis pas en train de donner le doigt d'honneur, tu sais, comme aux baby boomers, là. Non, tu comprends.
Ça vient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, il faut apprendre à critiquer comme de manière positive, ouais. Un peu, tu sais, en éduquant.
Ouais.
Donc, puis moi, le premier, j'ai de la difficulté avec la critique, mais je pense que j'ai de la difficulté avec la critique plus rude ou pas bienveillante, tu sais, mais... Ouais. Je veux dire, mes profs préférés, c'était des gens qui étaient exigeants. Mes coachs préférés, c'était des gens que je respectais hautement. Même chose. Fait que je pense que c'est toujours de la manière que c'est fait, que c'est communiqué puis que c'est dit. T'sais, fait que, puis je trouve que ton discours est vraiment très merci. Doux. Là,
ouais.
Dans le sens, ça donne... En tout cas, je trouve ça cool, la manière que tu exprimes ça, parce que ça prend. Comme. J'imagine que dans ta vie, c'est un combat quotidien. Mm-hmm. Malgré le fait que tu portes plus le voile, ça demeure un combat quotidien. Que je te souhaite un jour que ce soit. Qu'on utilise moins le mot combat, genre.
Ouais.
Et t'as pas perdu ta douceur et ta patience, malgré tout.
Mm-hmm.
Chose que j'admire beaucoup.
Merci.
Parce que, à un moment donné, ça doit devenir enrageant, là, tu sais.
Ouais, certainement. Puis, je vis ces moments-là. C'est juste que j'en fais pas. C'est peut-être pas public, mais oui, on vit des moments de ras-le-bol. Puis, comme disons, l'année dernière, quand il y avait genre George Floyd puis Black Lives Matter, j'étais à New York, tu sais, en pandémie. Fait que. À cette époque-là, j'avais pas un discours très peace and love. Je faisais partie des gens qui voulaient appeler à un changement radical maintenant. Puis je me souviens qu'à l'époque, là, je fais juste une parenthèse, là, mais les gens, à cause qu'il y avait eu. How do you call looters? Tu sais, des gens qui allaient comme faire un peu de la.
Du
cassage.
Du cassage,
là,
ouais, des.
Whatever, là, comme dans
des
Target ou dans des. Nike store ou je sais pas quoi.
Yeah.
Là, tout le monde était obsédé de dire « I attended a peaceful protest. I attended a peaceful protest. » Je suis comme, on peut-tu trouver un autre adjectif, là? Comme « peaceful sounds so watered down » pour ce qu'on essaie de dire, dit « I attended like a passionate protest. »
Mais te souviens-tu, c'était, si je me trompe pas, c'était Trevor Noah qui avait parlé de ça.
Ah non, je m'en souviens pas.
Il y avait au Daily Show, ou sur son Instagram, il avait posté un clip. Et sur le Daily Show, si je me trompe pas, où il parlait exactement de ça, où il était comme, faut qu'on arrête de dire ça, parce que it's a protest.
Point.
On proteste.
Exact.
Le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. C'est pas ça l'idée, mais on proteste.
Exact.
On va pas faire ça de manière comme... si chill. Dans le sens, l'idée, c'est pas on pète tout. Au contraire, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire qu'il disait.
Ouais.
Mais il ramenait, il l'expliquait vraiment, vraiment très bien.
Ouais. Non, mais, tu sais, puis c'est pour revenir à différentes luttes, différentes énergies. Tu comprends? Comme là, on parlait de vie humaine, là, tu sais, qui venait de se perdre, là. Comme, non, j'ai pas le goût d'être dans. C'est un espèce de discours tellement dilué que tu perds un peu le focus. Mais quand ça vient à ce discours sur, tu sais, comme liberté de religion, égalité des sexes, Québec, c'est qu'il y a tellement une fracture en, disons, Québécois de souche, immigrants, religieux, athées, nanana, que ce que je désire, c'est une transition intellectuelle et émotive. Mais pour avoir cette transition émotive, je pense qu'on doit appeler à, tu sais, comme un travail dans les mots qui... Fais pas juste pointer du doigt ou accuser ou, tu sais.
À savoir écouter aussi beaucoup, tu sais, de l'autre côté, parce que il y a quelque chose aussi où ta religion, ta spiritualité, Alex, même chose, moi, ça t'appartient, mon truc m'appartient. Après ça, on peut partager, on peut échanger, on peut s'ouvrir, mais tu m'empêches de rien, tu sais.
Ouais.
Après ça, même chose pour l'enseignante par rapport aux enfants.
Exact.
elle peut juste les éduquer sur une réalité que si les enfants n'ont pas cette enseignante-là, Jane César qui rencontrera, ils vont pas rencontrer souvent cette réalité-là. Donc, c'est juste de les éduquer encore plus.
Puis l'ironie, c'est qu'il n'y avait jamais eu de plainte au Québec au niveau de l'enseignement qu'un enseignant had overstepped, tu sais, comme
ses fonctions.
Ses fonctions, tu sais. Et donc, on adopte quoi pour qui, en fonction de quelle réalité, comme tu te bacs sur quelles données pour autre que celle de ta peur, puis protéger le legs du Québec, puis la culture, puis la langue, puis tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est de vouloir protéger une identité qui est, c'est comme on la sclérose, cette identité-là, parce qu'on l'empêche de, je parle de l'identité québécoise là, au niveau collectif là, on l'empêche de se vivre dans une multiplicité, puis cette multiplicité en ce moment, ben ça comprend des communautés religieuses, tu sais, et à religieuses, et agnostiques, et vieilles, et jeunes, mais entre autres, des communautés religieuses. Puis il n'y avait jamais eu de plainte. Et donc, c'est comme, on se base sur quoi pour aller adopter une loi dans laquelle maintenant, on retire l'accès à l'emploi à certaines personnes. Et ici, je veux être claire, on retire l'accès à l'emploi à des femmes musulmanes qui portent le voile. Parce que c'est le groupe démographique ciblé. Puis un pote américain, quand je lui parlais, j'ai écrit un livre et tout, et je lui parlais de cette loi-là, il me dit, ça me fait penser à The War on Drugs, à l'époque où, tu sais, les États-Unis adoptaient des lois dans lesquelles sont comme, bon, ben, le crack, c'est mauvais, puis ça, c'est les pénalités, mais la cocaïne, c'est la même chose, hein, crack et cocaïne, je pense que c'est juste un est cheap, l'autre est comme, c'est une affaire de même,
je,
là.
Je sais pas exactement.
Mais la cocaïne, tu sais, les pénalités sont moindres. Fait qu'en apparence, ta loi peut viser n'importe qui, mais démographiquement, c'est qui tu cibles? Les Afro-Américains. Fait que c'est qui t'as allé mettre en prison? Les Afro-Américains. Je pense que c'est un peu la même chose avec la loi 21, c'est qu'on le nomme pas, mais après, on n'est pas stupide, on sait exactement c'est quel groupe démographique que ça vient cibler, tu sais.
Exact, c'est hypocrite.
Ouais.
Ouais, j'avais... C'était-tu dans le documentaire
13 Amendment?
Yeah.
Ouais.
Sur Netflix, qui parlait beaucoup de ça.
Ouais.
Ouais,
ben ça parle, entre autres, comment l'esclavagisme a été aboli seulement pour que les lois sur l'incarcération deviennent plus sévères. Et donc, à travers l'incarcération, c'est comme ça que tu mettais plusieurs hommes afro-américains dans le système carcéral qui est beaucoup dominé par private equity, private firms, et qui travaillent à $1 l'heure.
Mm-hmm.
Fait que c'est quoi? Tu reviens à l'esclavage, tu sais?
C'est terrible.
Ouais.
C'est fucked up.
Ouais.
Dans la dernière année, en plus, tu parlais de Black Lives Matter tantôt. Il y a eu beaucoup de mouvements au Québec aussi, aux États-Unis aussi, partout, là, en fait. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que ton livre arrive à un moment où il y a une espèce d'ouverture ou, au contraire, il y a une espèce de trop-plein de là, tu sens qu'il arrive à un point où les gens font « Hey, là, on a trop d'affaires à changer en même temps. »
Ouais, c'est une super bonne question. Reste qu'au Québec, la loi est toujours en place. On n'a juste pas le choix que de continuer d'en parler. T'sais.
Mais en fait, la question, c'est même pas de temps pour te mettre dans un coin. C'était plus quasiment une question commentaire que je voulais dire où je trouve que t'es bonne pour porter ce combat-là. Puis je te remercie. En tout cas, je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui parce que. Je trouve que c'est important de travailler l'empathie. On ne pourra jamais être trop empathique, j'ai l'impression. Puis je ne détiens pas la vérité. Là. C'est juste mes réflexions ongoing. C'est l'empathie et l'écoute, c'est des choses qu'il faut comme mettre au maximum sans cesse. Et je sens, moi, il y a certains trucs qui m'animent, certaines situations comme les situations dont on parle en ce moment, qui m'animent énormément puis que j'ai envie d'en parler sans cesse pour qu'un jour ça... Puis à un moment donné, je sens qu'il n'y a plus d'écoute. C'est juste dès que tu dis loi 21, c'est comme... On ferme les portes. Puis... Mais c'est là où je trouve que de la manière que tu en parles, les portes se ferment pas.
OK. Merci.
Je trouve que tu es très... Je te trouve extraordinaire.
Ah, ben merci. C'est super gentil. Vraiment. Je l'apprécie,
Vraiment. Merci tellement.
Ah, ben merci. Mais je te comprends, tu sais, pour revenir sur le trop-plein... On le voit dans tellement de milieux. Et là, tu sais, juste récemment, avec sais, le Palestine-Israël, tu sais, les gens ne voulaient plus en entendre parler. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, bah, c'est au Moyen-Orient, puis on a... Tu sais, alors que c'est comme, non, si nos taxes aident un gouvernement qui attaque une population sans défense, on est responsable.
Exact.
Et on doit faire partie de ce discours-là. La loi 21, c'est dans notre province, c'est notre province qui l'a adoptée. Bon, Black Lives Matter, c'est sûr qu'on a énormément de problèmes au niveau de, tu sais, du respect des Afro, ben, des Québécois noirs, tu sais, comme brutalité policière existe ici, mais ça a été un réveil. Ben, Black Lives, je veux dire, Black Lives, c'est vieux, là, je veux dire, c'est pas récent, George Floyd, mais ce que je veux dire, c'est que...
Mais c'est que là, c'était comme, ah, là, c'était too much, là, tu sais.
Avec la pandémie, ça a été juste comme explosif et c'était nécessaire, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais oui, je te comprends, puis je sais pas quelle est la réponse autre qu'il faut essayer de continuer à être inconfortable.
Yeah.
Tu sais, comme d'être dans l'inconfort. Puis si quelqu'un veut pas t'écouter, tu sais, comme... You snap it a little bit, genre, sois ici avec moi, tu sais, parce que c'est important. Il y a des conséquences réelles sur des personnes, puis je veux dire, on est responsable de, tu sais, si on habite cette province-ci, ben on est responsable des lois qui sont adoptées, tu sais.
Est-ce que tu penses éventuellement à la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui
pas maintenant, parce que j'ai encore le goût d'être peut-être un peu plus libre et créative dans mes choix. Et j'aimerais encore vivre à New York quelques années, puis j'aime beaucoup cet endroit-là. Mais des gens comme AOC m'inspirent énormément. Bernie Sanders est aussi aux États-Unis, mais même au Québec, Françoise David, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est pas quelque chose que... Peut-être dans le futur...
Who knows?
Mais en ce moment, je pense que j'ai encore le goût d'être... dabble, like, in different fields, ouais.
Tu veux vivre, tu vas aller voir Frank Ocean quand il va
you
faire
know,
un show,
ouais,
tu sais.
C'est ça, je t'inviterai d'ailleurs.
Yo! Si un jour je retourne à New York, c'est sûr que je te texte pour avoir des bonnes adresses.
Ben oui!
C'est sûr.
Avec grand plaisir.
C'est sûr.
Ouais.
Daniel Suleiman.
Ouais.
Bon succès.
Merci.
Merci tellement. C'est une rencontre extraordinaire.
Ah, oh, merci.
J'adore ça. On s'était jamais rencontrés avant.
Non,
on s'était jamais parlé.
Non.
Tout ça s'est passé par mon agente, ton agente et tout ça.
Ouais.
Mais c'est une rencontre qui a fait ma semaine, sincèrement.
Oh, wow.
Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris
merci
de ton
à
temps.
Toi. Je suis tellement contente d'être ici puis d'avoir eu une plateforme auprès de toi pour discuter de tous ces enjeux-là. Fait que malentendu UES,
yeah.
Un seul mot.
Disponible dans toutes les librairies.
Au Québec.
That's it.
Ouais.
That's it.
Ouais.
Allez acheter ça.
Ouais.
Merci d'avoir écouté.
Ouais.
Merci
et si je peux juste faire une parenthèse sur le titre de mon livre.
Yeah.
Mon livre, c'est Les malentendus UES et c'est pas un vrai mot en français. J'ai utilisé le concept du néologisme qui est de mettre deux termes ensemble. Et donc, les deux termes, c'est un malentendu qui...
Yeah.
Un malentendu et les mal espace entendu UES. Le malentendu étant celui du conflit incessant qu'on fait entre la liberté de religion et l'égalité des sexes. Et les malentendus, c'est les femmes religieuses féministes qui sont mal entendues et non entendues. Et donc, j'ai mis les deux mots ensemble pour en faire un seul mot, les malentendus. Merci. Ouais.
Fucking solide.
Donc,
vraiment bon
tout est là dans le livre.
Yeah.
Ouais.
J'ai très, très hâte de le lire.
Ah.
Je te souhaite bon succès. Puis, anytime que tu sors autre chose, tu as envie qu'on continue à jaser, t'es toujours la bienvenue.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Si j'habite anyways maintenant,
ouais,
I'm
c'est
done.
Ça, c'est ça.
Venez, je vais sortir. Je suis là, on enregistre, dude. Oh, shit.
Ouais, c'est ça. Pas le choix, pas le choix.
Paye-moi une salade, parfait. Hey, merci, Daniel.
Merci.